Vous écoutez Radio FMR. Nous sommes le samedi 25 octobre 2008. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le feuilleton que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Je trouve que les filles, c'est plus joli quand c'est un peu rond. Et puis j'aime bien les garçons grands et maigres, alors je pense qu'inconsciemment, je dessine ce que j'aime bien. C'est tout.
Thomas, tu te fais draguer. Pose une autre question pour voir.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geeks, avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Eh ben bonjour et bienvenue.
Salut.
Ouais, non, ça va, c'est pas la peine de m'exploser les oreilles, hein.
Ça Zou. Va mieux.
Ouais. Ah ouais, c'est mieux quand on est assis. On a eu un peu de mal au démarrage. Enfin,
bon. Mais oui, on inverse les intros maintenant. Ce n'est que la deuxième émission de la nouvelle saison.
Ouais.
Faut qu'on se rôde.
C'est tout. Et en plus, à chaque fois, je suis obligé de refaire le générique et tout. Je te dis pas le merdier. Enfin si, tu le sais très bien. Enfin bon, t'en as un peu rien à foutre. Hein.
Non.
N'empêche qu'elle était sympa, hein, la petite Laurel, samedi dernier.
Ah ben...
Dites pas à nos copines que quand même, bon voilà quoi.
Qu'elle est trop mimi ?
Oui, à peu près. Aujourd'hui, cette semaine, dans le supplément week-end, aujourd'hui d'abord, en dehors du supplément week-end, à Librairie Album, Serge Fino, Serge Carrère et Wezengel dédicaceront Cerbère, c'est donc à partir de 15h30, et hier, il y avait Nico Henrichon pour sa nouvelle série. Je devrais en parler aujourd'hui. Je l'ai lu, ça m'a retourné, je me suis dit non, ce sera la semaine prochaine, désolé
ouais,
Nico.
Il faut du recul, il faut que tu digères tout ça.
Et ouais, non, mais en plus, il envoie, il n'y a rien à redire. Cette semaine, dans les actualités rigolotes, eh ben, figurez-vous qu'il y a eu la conférence de presse du Festival d'Angoulême pour la 36e édition, avec comme président Dupuis et Berberian. C'est une présidence bicéphale. Oui, parce qu'il faut occuper médiatiquement le terrain, hein, face au vrai président, c'est pas évident. Et... sur le site de notre partenaire ActuABD, ben Didier Passamonique fait comme d'habitude un compte rendu pas piqué des verres et des hannetons. C'est assez rigolo, il faut revenir à l'économie du réel. Premier réflexe de Thomas, je sais pas mais j'ai un peu de mal sur l'affiche. Je t'ai amené l'affiche un peu plus près.
Ah oui, là plus près on voit un peu plus, mais quand même ça reste chargé. Hein.
Ça reste. Ouais, et puis je sais pas, c'est lettres super sombres, etc.
Le lettrage est assez illisible, et c'est vrai que la compo rappelle furieusement un peu cet effet de mode où les explosions un peu illustratoriennes, là. Ça commence
et pourtant,
à...
Dupuis et Berberian, ils ont fait deux superbes affiches, de superbes campagnes d'affichage, notamment pour un vendeur de vin. N'oubliez pas de boire avec, de consommer avec modération, mais n'empêche, c'est la crise, alors allez-y, bourrez-vous. et puis, accessoirement, comment dire, peut-être qu'on en reviendrait au côté un petit peu guindé de la bande dessinée franco-belge.
Oui, BD sur l'intime, tout ça.
Ouais. Et d'un autre côté, on se pose la question, c'est est-ce que on n'est pas reparti, je dirais, dans une crise comme on a connu dans le milieu de l'édition à bande dessinée entre 91 et 95, qui a failli emporter pas mal d'éditeurs et qui a emporté d'abord pas mal de magazines de prépublication. C'est-à-dire, on avait eu une surproduction. Et là, en ce moment, ça bouge pas mal dans le milieu de l'édition depuis 2 ans. Dans le sens de la concentration des éditeurs qui se vendent à des plus gros, il y a toujours le sort des Humano qui est en suspens, régulièrement. On en reparle, on dit oui, on sait pas trop vers où ils vont. Il y a ce Casterman qui a racheté Fluide Glacial, qui est racheté par un groupe italien. Bon, ça se fait depuis un bail, mais quand même. D'autres qui ferment, comme CIBD, qui s'était spécialisé dans la bande dessinée sud-coréenne. D'autres qui s'échangent. C'est-à-dire Glénat vient ainsi d'acquérir l'Écho des Savanes à Alma Michel. Et Très Étrange à Milan. Oui, c'est l'éditeur indépendant Très Étrange s'était fait racheter par Milan. Et Milan a décidé de se centrer sur la bande dessinée jeunesse et donc a dit on le refile à Glénat, comme ça. Vous savez, il y a une transaction. D'un autre côté, il y a aussi Glénat qui éditera des BD dérivés des films produits par Luc Besson. Alors que Luc Besson a son propre éditeur, 7ème Choc. Et Luc Besson qui dit du coup on va faire des films dérivés de votre propre bande dessinée. Dans tous ces mouvements économiques et alors
avec des adaptations qui sont annoncées de BD d'auteurs qui ne sont eux-mêmes pas au courant.
C'est là où on se pose la question, c'est-à-dire qu'on pourrait croire que les auteurs passent un peu en ce moment un peu au second plan, surtout qu'il y a une explosion du nombre de nouveautés. 4000, c'est monstrueux, c'est absolument improbable, et qu'on commence à se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une surproduction ? Question, on se l'a posée depuis un bail, à 1000, elle était, oui, peut-être, mais il y avait encore une production de qualité, à 4000, il n'y a pas que des bons trucs qui arrivent, hein, et les libraires, il y en a qui disent eux-mêmes qu'ils ne sortent même plus les BD des cartons.
Ah ouais, c'est grave là.
Ils ont même plus le temps de les mettre en linéaire, ça repart. Ils savent que certains vont pas se vendre, etc. Mais c'est les accords, vous savez, c'est quand on prend en bundle parce que certains éditeurs et certains commerciaux sont un peu trop pressants. Oui, si tu me veux tant de tel blockbuster avec le stand-up qui va bien, le présentoir et tout le reste, tu me prends telle série et telle série. Du sport, elle en parle régulièrement à propos des séries télé que les chaînes françaises achètent aux États-Unis. Si tu veux telle série, il faut que tu achètes telle série, celle-ci, que tu les diffuses. Ah ouais, mais t'es gentil, quoi. Vous l'avez pas diffusé jusqu'au bout, vous.
Le syndrome des packs de films avec une sortie technique également.
Donc voilà, c'est le même principe. On a voulu s'en assurer en interviewant Tot. Tot n'est pas... pas au départ un éditeur de bande dessinée, c'est un éditeur de jeux online. Ce n'est pas non plus un businessman, c'est un directeur artistique. Le dessin, on peut dire qu'il connaît sur le bout des doigts et jusqu'à la rognure des crayons. La bande dessinée, c'est une sorte de produit dérivé chez Ankama. Et Tot aurait pu s'en cantonner à ça. Ben non, il a accueilli Maliki, Mutafukaz, The Bazer, des séries intéressantes, d'autres albums plus expérimentaux. Si au départ les dessinateurs était ses salariés, il a ouvert son champ, explosant même la notion de format au sein des collections. Mais là où on le remarque, c'est qu'en janvier dernier, il était présent, enfin, Ankama était présent à Angoulême, sans que Tot y soit présent, sans qu'ils aient réellement de stand à Angoulême. Oui, Tot a son caractère et son indépendance lui permet de dire ce qu'il pense. Fallait qu'on le rencontre. Il a forcément des choses à dire sur l'édition en France. C'est lors de la Japan Expo où il avait il y avait un stand immense baptisé Ankama Convention qui bizarrement n'était même pas dans les dépliants dans les cartes de Japan Expo que nous sommes allés le voir parmi son public. Thomas ?
Oui, s'il y avait quelque chose à ajouter sur Tot, c'est les témoignages concordants de tous les auteurs qui sont chez Ankama Edition, qui disent tous que c'est un gros barjo. C'est un type qui n'a pas de limite, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de... il est fan de baston, donc il va publier des bouquins de baston. Il aime le catch, allez, on va sponsoriser des combats de catch à la Japan Expo. Il va... ce serait bien, juste pour voir si c'est possible d'éditer un bouquin en format raisin, il va te le sortir. T'as l'impression qu'il n'y a aucune limite sur surtout que maintenant le groupe Ankama est entré en participation dans nos lives, donc ça va ouvrir un nouveau champ
c'est spontané. Donc c'est vrai que de ce côté là on se pose énormément de questions, et comme il dit dans l'interview, ils s'en sortent plutôt bien et ils en sont ravis. Donc tout ça on va le voir. On est allé donc le rencontrer à Paris en juillet dernier
on l'a extirpé de sa horde de fans.
Ah oui, parce qu'il se fait poursuivre de partout, et on lui a posé donc quelques questions.
Tot, bonjour.
Thomas, bonjour.
Tot, bonjour, merci d'abord d'avoir sauvé ma raison de non vivre.
Qu'est-ce que je suis censé répondre là ?
comment a été fondé Ankama?
Excuse-moi, c'est ma femme. C'est la seule personne à qui je réponds.
Voilà, c'était l'interview donc de Tot. donc une interview plutôt courte et qui a été sincère et qui donc, on savait qu'il évitait les journalistes. Maintenant, on en est assuré. Non, pardon, excusez-moi. Il y a quand même eu une suite.
Ankama ou Ankama Édition?
Ankama, le groupe en lui-même, pour en venir à Ankama Édition.
Le groupe Ankama a été fondé il y a 7-8 ans maintenant, c'est en mai 2001, suite à, on va dire, une association entre deux potes et moi-même. Et on travaillait tous les trois dans une web agency qui nous a sérieusement gonflés. Et puis on s'est dit à un moment, bon bah, autant tenter l'aventure et puis vivre la chose nous-mêmes.
Ankama depuis est devenue une société qui a bien explosé, notamment grâce à un jeu vidéo en ligne et une énorme diversification. Donc est-ce que vous pouvez à peu près détailler justement quels sont les secteurs d'activité de votre groupe? Oui, je sais, ça fait Financial Times comme interview, mais bon, c'est comme ça, on déconne.
On a donc commencé en travaillant dans du site internet. Création, conception, réalisation de sites internet pour des marques. Donc on était vraiment prestataire de services à l'origine. Et puis en fait, dès qu'on avait un petit moment, moi j'avais ce projet là qui me tannait depuis un bout de temps, c'était de faire un jeu online. Et dans mon coin, le soir, ou quand j'avais un petit moment et moins de clients, on va dire, et moins de chartes graphiques à faire, et ben je commençais à écrire un petit peu sur l'univers de Dofus. Donc on a travaillé dans le jeu vidéo, le Dofus a commencé à bien fonctionner. On a commencé à me demander en interne, mes associés m'ont demandé à réfléchir à une plaquette graphique, sachant que je m'occupe des concepts et de la direction artistique. On m'a dit, ben, trouve un concept pour une belle plaquette graphique. La plaquette graphique, ça me faisait chier. Donc j'ai débordé et je me suis dit, tiens, un artbook, ça aurait bien plus de gueule à présenter qu'une plaquette commerciale ou market à la maman le nœud. Donc je suis parti sur un artbook et en fait, l'expérience du artbook Dofus m'a beaucoup plu. Et puis étant donné qu'à l'origine j'ai fait des études à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai en section BD, je me suis dit, tiens, ça c'était sympa, je vais faire une petite BD à côté. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit, autant se lancer dans la maison d'édition, autant le faire nous-mêmes jusqu'au bout, on a réussi avec le jeu, bon ben voilà, on se lance dans l'édition et on tente notre chance. Et puis ça a donné ce que ça donne aujourd'hui sur l'édition. On a enchaîné avec une structure liée au dessin animé, donc à l'animation. Quand j'ai commencé à réfléchir au projet Wakfu, donc la suite directe de Dofus, je voyais vraiment un projet, cross-média, multiplateforme. J'avais pas envie de bosser qu'un seul projet, j'avais envie de bosser un univers décliné sur tous les supports qui me faisaient envie. Donc je rêvais depuis que je suis gamin, hein. De toute façon je rêve de bande dessinée, de jeux vidéo, de dessin animé. Bon bah là l'idée c'était de lancer Wakfu et puis de dire allez, c'est en freestyle, on fait tout quoi. Et il s'est trouvé que c'était ce qui correspondait exactement aux envies des chaînes au moment où j'ai commencé à en parler autour de moi. Et que j'ai pas été refroidi par l'accueil des chaînes, au contraire, tu vois, on a signé avec France 3 en 2 semaines. Donc ça a été super rapide, il me laisse une liberté sur les scripts, sur le board, je pense que jamais personne n'a connu sur une série. Et donc c'est le pied. Et puis dans les autres activités, on a également une société de mobile donc, qui développe des petits jeux en relation avec ce qu'on fait sur nos gros jeux Dofus et Wakfu, qui développe des petits jeux qui est basé à Lyon. On a également la presse donc pour le Dofus Mag qui sort en kiosque. Tout ça on sépare à chaque fois pour être sûr de ne pas faire d'impair et pour être sûr de quand il y a quelque chose qui fonctionne un petit peu moins bien au niveau compta, bah, on le sait tout de suite. On sait où sont nos points forts, où sont nos points faibles. Nos points faibles en général c'est l'équilibre, on n'est jamais dans le négatif, donc ça c'est le côté cool. Et puis récemment on a filé un petit coup de main à nos lives pour les sortir un petit peu du pétrin dans lequel ils étaient. Et donc on a une participation dans la boîte et on a renfloué un petit peu les caisses.
Votre cœur d'activité principale, enfin en tout cas ce qui a vraiment lancé Ankama, c'est le jeu vidéo en lui-même, aussi bien lancé sur le plan financier que sur le plan univers et tout le reste. En 2000, il y avait environ 4000 personnes en France qui travaillaient dans le secteur du jeu vidéo. L'an dernier, il y en aurait eu 1500. Alors d'après vous, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils sont tous partis dans les univers qui finalement, il n'y avait pas l'esprit, il n'y avait pas l'intérêt, ou bien c'est conjoncturel et vous avez trouvé la pierre philosophale, gnark gnark.
Quelle question difficile. Pourquoi il y a moins de personnes qui travaillent dans le jeu vidéo aujourd'hui qu'il y a 4-5 ans? Je sais pas, je pense qu'en tout cas, nous, de notre côté, il y, y a un mélange de chance, de ce qui caractérise vraiment, je pense, les gens dans le Kama, en tout cas, et même, on va dire, tous mes lieutenants, toutes les personnes avec qui j'ai commencé il y a 8 ans, et qui ont travaillé, qui m'ont fait confiance dès le début, c'est des gens qui ont de la volonté, qui ont la niaque, et c'est vraiment ça. On n'a pas un... On n'est pas les meilleurs, on n'est pas les meilleurs en illustration, on n'est pas les meilleurs en création d'univers, on n'est pas les meilleurs en scénarisation. Mais on a la niaque, on apprend vite et on fonce. Là-dessus, je pense que c'est ce qui fait tout et on apprend vite. Et sur Dofus, en fait, on est parti d'un petit projet amateur et on est parti, on s'est lancé dans l'aventure en écoutant ce qu'on nous disait. On s'est pris des parpaings dans la gueule, on s'est relevé et tu vois Dragon Ball, Son Goku, plus s'en prend dans la gueule, plus il devient puissant. Bah, nous, c'est ça. Et au fur et à mesure que les années ont passé, et ben on a mûri notre univers. Je pense qu'aujourd'hui, dans le milieu du jeu, enfin ce qui a fait la différence par rapport au projet Dofus, c'est en rapport avec les autres projets qui ont peut-être un petit peu plus de mal, en tout cas en France, c'est qu'on est nos propres éditeurs et nos propres producteurs. C'est-à-dire que tu vois les studios de jeux vidéo français, souvent c'est des boîtes de peut-être 15, 20, 30, 50 personnes, mais qui travaillent pour un éditeur. Ce qui fait que ils ont beau faire de bonnes ventes, c'est pas les personnes qui produisent qui gagnent le plus d'argent sur leur projet. C'est un petit peu comme en BD, quoi, tu vois, l'auteur, bah, c'est bien, il a 10%, il a ses avances et tout. C'est pas celui qui gagne le plus sur ce qui se produit. Le jeu vidéo, c'est pareil. Et nous, notre grosse, enfin, en tout cas, moi, ma chance, je la calcule comme ça aujourd'hui. On a tout fait tout seul. On a pris les risques au fur et à mesure que les années passaient. Et ça a payé.
Est-ce que c'est pas aussi le fait que vous êtes en relation directe avec les personnes justement qui jouent à vos jeux, que vos forums sont très ouverts? Je crois même qu'à une époque, vous aviez désiré monter votre propre chaîne de télé avant de filer le coup de main à No Life.
En fait, le projet, il y a de ça. L'accessibilité, on va dire, on est très accessible. Et nos fans peuvent nous croiser à n'importe quel moment, on va discuter avec eux, on peut les envoyer bouler. Il y a vraiment une espèce de... Nos fans ont un grand respect pour ce qu'on fait. Et ils sont contents, ils aiment, en fait, c'est une aventure qu'on partage avec eux. Quand on crée quelque chose, on leur en parle, on leur demande leur avis. Et des fois, leur avis nous fait changer de notre développement. Et ça, je pense que c'est un cadeau inestimable qu'on peut offrir, même peut-être plus que le projet en lui-même. C'est que les fans se sentent impliqués et ont l'impression de produire quelque chose également et de vivre l'aventure avec nous. Ça réussit tout son échec et ça c'est top, et c'est pour ça qu'on a, sur une convention comme aujourd'hui, je sais pas combien de personnes sont venues nous voir, mais ça se compte en milliers de personnes. C'est colossal. Par rapport à la question, à la deuxième question que j'ai zappée, en fait c'était pas un projet de chaîne de télé, on va dire à la No Life. C'était un projet de web TV que j'ai toujours d'ailleurs, qu'on va bientôt commencer à développer. Et No Life, je me suis dit, ça serait pas indissociable de ce qu'on fait, ça serait pas en opposition avec les concepts qu'on est en train de développer, d'investir un petit peu dans leur chaîne. Surtout qu'ils ont une expertise technique et une volonté. En fait, je me retrouve beaucoup, j'ai l'impression de me voir il y a 8 ans quand je vois les mecs de No Life. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est des mecs qui en veulent. Il y a 8 ans, nous, on est passé à fermer la boîte, ça s'est joué à rien du tout. Parce qu'on manquait de contrat et Dofus n'était pas lancé. J'aurais été bien content que quelqu'un vienne me voir et me dise t'as une volonté de faire, t'as la niaque, je me reconnais, et viens, je vais t'encourager.
On va un petit peu parler d'Ankama Edition. On sait que Raymond Domenech sélectionne ses joueurs sur les thèmes astro. Quand on voit vos illustrateurs, Maliki, Mojo Jojo, Ancestral Z, Run, vous les sélectionnez sur les pseudos?
Non, je ne sélectionne pas sur les pseudos. Peut-être que ça joue, peut-être qu'inconsciemment je me dis voilà, mais non. Non, je les sélectionne sur le talent, enfin en tout cas sur ce que j'estime être du talent, donc j'ai pas l'impression de me planter quand je vois les albums qui sortent, les mecs.
Oui, d'ailleurs, justement à propos des méthodes de recrutement, Maliki serait plein à notre micro de harcèlement.
De harcèlement, ouais, bon, il le voit comme ça, mais quand on se fait passer pour une meuf, à un moment, faut assumer. Hein.
Alors vous êtes le patron et le scénariste de la BD Dofus. Comment ça se passe par rapport aux dessinateurs? Vous décidez, ils exécutent?
En fait, c'est complètement pas ça. C'est j'ai un style d'écriture qui est normalement plus, qui est assez sérieux. En tout cas, j'aime bien traiter de certains sujets. Et je me suis complètement adapté au style graphique d'Ancestral Z. J'ai mis, on va dire, deux bons tomes pour m'y faire. Les deux premiers, vraiment, je me cherchais. Et je voulais faire quelque chose qui lui correspondait. Et ouais, je voulais vraiment faire quelque chose qui lui correspondait. Je voulais qu'il se sente à l'aise et qui, parce qu'on avait quand même, j'avais un objectif de rendement. Je voulais vraiment qu'on travaille à la japonaise. Il était chaud, mais je savais très bien que si que certaines choses ne seraient pas passées, il n'aurait pas pu tenir sur du long terme si ce que je lui proposais à la scénarisation ne lui avait pas plu. Donc je me suis adapté à fond à son style de dessin. Et finalement, quand je vois les derniers tomes qu'on fait, je suis super content parce qu'on a une espèce de touche qui est encore... je pense que c'est jamais vu, dans le sens où il a un côté très, très Toon, très Clone Wars, très Samurai Jack. Un dessin un peu à la donjon. Et moi, de temps en temps, au scénar, je place des choses un petit peu presque choquantes, tu vois. Je parle de tout, n'importe quoi. Et du coup, ça donne un drôle d'univers. Et c'est une belle expérience, en fait.
On est ici à Japan Expo. Ce qui est impressionnant, c'est le mélange. Il n'y a pas de sectorisation. On est vraiment ouvert. On parle aussi bien de dessins animés que de jeux vidéo et tout ça. Si vous n'étiez pas franchement présent dans le line à Angoulême, ces manières de dire vous êtes trop sclérosé, vous ne vous intéressez pas à la BD franco-belge, ça pue caca, ou c'est on tâte le terrain, mais croyez-nous, la prochaine fois on débarquera en force.
À Angoulême? Non, je vais pas à Angoulême, en fait. Et j'ai rien contre Angoulême, c'est juste que en fait le milieu français de la bande dessinée manque cruellement d'ouverture d'esprit. Et Angoulême, pour moi, c'est le représentant de ça, tu vois. Et si je vais à Angoulême, je vais me faire défoncer, tu vois. Je vais avoir des auteurs comme j'ai déjà eu droit. Et vous faites de, c'est la merde ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas de la BD, ça. C'est quoi ce format? C'est quoi? Y a pas de couleur, y a pas de ci, y a pas de ça, tu vois. Je pense que on est dans un virage chez Ankama, et en France il y a une mode, tu vois, et nous on a bien pris ce virage, c'est-à-dire qu'il y a une demande des fans, on voit le succès du manga et de la japanimation en France, on voit le succès du comics, je vois pas pourquoi on pourrait pas mélanger les styles et faire des albums étranges, spéciaux, avec des différences de papier, une moitié noir et blanc, moitié couleur, bref, faire des expériences, tu vois. Je pense que les gens attendent beaucoup ça, et on est les premiers à faire ça et à se lancer dans l'aventure. Il y a du fun, je pense que ça se ressent dans ce qu'on sort. On met nos couilles sur la table, on dit, on le fait comme ça. Les gens se disent, ils prennent des risques, ils apprécient le truc et ça les amuse, ça les amuse autant que ça nous amuse de le faire, et je crois qu'ils le ressentent. Et ça sort des sentiers battus et ça sort du 48 pages traditionnel, tel format, machin, qui plombe toutes les librairies, et qui au bout d'un moment tu fais bon bah il en faut, c'est bien, mais quand tu ne vois que ça, il y a un moment tu fais bon, il y en a marre, tu vois, il y en a marre.
Pourtant le label Araignée qui va bientôt débarquer est centré plus sur une bande dessinée d'auteurs, ça pourrait peut-être vous ouvrir à un public plus habitué au festival d'Angoulême.
Mais oui, mais en fait, si vous regardez les publications Ankama, c'est open bar. Voilà, c'est vraiment, il peut y avoir du format manga, il peut y avoir un format un petit peu plus grand intermédiaire, il peut y avoir un format à la Muta Fukase à 124 pages noir et blanc couleur. Il peut y avoir n'importe quoi à partir du moment où on n'a pas de, comment dire, on rentre pas les gens dans une certaine catégorie. On va pas dire un machin. Tiens, regarde, chez nous, en ce moment, Muta Fukase, ça cartonne. Un nouvel auteur qui arrive, tu vois, on va pas lui dire Muta Fukase, ça cartonne, fais du Muta Fukase. Et on va faire la même chose, et tu vois, ça va cartonner autant que Muta Fukase. C'est bien, on va profiter de la vague. On fait pas ça, on s'en fout. On travaille l'édition, on se fait vraiment plaisir. C'est de la com, je fais pas pour... Enfin, on l'a pas fait pour gagner de l'argent. On gagne de l'argent avec le jeu vidéo. L'édition, c'est vraiment... chez nous, c'est débridé, on se lâche, on fait ce qu'on a envie de faire. Et il n'y a pas de tabou. On peut vous sortir un album sur format raisin, ça ne me choquerait pas, tu vois, c'est des envies. Et demain, je sais pas de quoi on aura envie, mais ça sera quelque chose où les gens se diront « Ah tiens, ça change !» On a envie de choses qui changent, voilà, c'est tout, ça s'arrête là.
Peut-être pour en revenir un petit peu plus dans le jeu vidéo, quand le matin vous arrivez, vous entrez dans votre bureau, vous asseyez, vous allumez votre ordinateur, vous vous dites « Je fais ça parce que ça m'éclate !» ou je fais ça parce que j'ai envie d'éclater d'autres à mes propres jeux.
Éclater d'autres à mes propres jeux dans le sens d'autres sociétés ou d'autres joueurs ? D'autres joueurs ? Non. Quand j'arrive le matin dans mon bureau, déjà je sers 50 pinces. Bonjour à tout le monde, tout ça. Après je vais me laver les mains parce qu'on sait jamais, il y a peut-être des mecs qui ont un gastro, des trucs comme ça. Hop, ensuite j'allume mon ordinateur. Et là en fait c'est le pied parce qu'en fait j'ai le choix entre qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Je bosse sur le jeu, je continue mon script, je me fais un petit épisode du dessin animé, bon, je vais voir mes petits gars pour faire une petite réu. J'ai vraiment un pur plaisir, un confort de vie hallucinant, et je pense que les 99%, je dis 99% parce que je dois bien avoir 1% de gens chez moi qui sont pas contents, sûrement sur 300 personnes, je sais pas, mais il doit y en avoir. Je pense que les gens qui travaillent chez moi, ils sont dans cet état d'esprit là, on se prend pas au sérieux, on s'amuse, on est peinard, c'est pas la guerre quoi, et c'est un vrai gros kiff quoi. Et je suis d'autant plus sûr de ça que j'étais confronté à des drôles de problématiques, à des personnes, des grosses boîtes qui ont voulu racheter la Ankama à gros coups de millions, auxquels on a dit non, parce que là on veut pas perdre ce petit bonheur qu'on a là, on veut conserver ça à tout prix quoi. Donc c'est vraiment un kiff général. Et toujours faire le concept, il est simple, c'est toujours, en fait j'ai une espèce de philosophie, c'est ne jamais faire à quelqu'un d'autre ce que je voudrais pas qu'il me fasse. Et bien dans cette même optique là, je fais les jeux auxquels j'aimerais jouer. Et je me dis si moi les jeux auxquels je participe et sur lesquels je travaille me plaisent, ça plaira à d'autres quoi. Je pense être dans la moyenne, tu vois, des goûts.
Alors si on devait résumer en un motto, par exemple celui de Google c'est Don't be evil, ne se faites pas le mal, quel serait celui d'Ankama?
Je savais pas, pour Google, c'est sympa ça, Don't be evil, ça pète. Ankama, je sais pas. Si je devais tout résumer, c'est impossible. J'ai pas, là, comme ça, là, sur le. Tu m'aurais demandé de le préparer, j'aurais ouvert Mandico et je t'aurais trouvé 10 000 trucs, mais là, je sais pas, non. Pour moi, Ankama, c'est un idéal de boîte, tu vois, c'est ça, quoi.
Ça. Bah, ça concerne le dessin animé, en fait. Maintenant que vous avez lancé 2 saisons, je crois, de Wakfu, la prochaine étape, c'est quoi? C'est un autre dessin animé? C'est essayer un nouveau média que vous n'avez pas encore utilisé, ou c'est carrément le long métrage?
En fait, tu as dit la prochaine étape, mais c'est les prochaines étapes. Et c'est donc un film l'année prochaine sur Dofus, donc qui est en préparation. Et accouplé à des OAV. Donc les OAV, en fait, on prévoit 5 OAV, un film. 2 à 3 OAV sortiront avant le film, seront disponibles en DVD. Et en diffusion, il y aura une diffusion au cinéma unique. Enfin, c'est un projet qu'on développe déjà avec des partenaires. Et après le film, on sortira les 12-3 autres OAV. Et chaque OAV va parler des héros du film. Donc ce sera par exemple, je dis n'importe quoi, il y a Goulthard dans le film qui fait partie du groupe. Et ben, il y aura en fait un OAV spécial Goulthard qui racontera ses origines et tout ça.
Plusieurs OAV sur Goulthard, j'espère.
Ouais, moi aussi j'aimerais bien.
Alors justement là-dessus, d'abord tu commences à titiller en parlant des japonais. Ensuite tu utilises les termes techniques, OAV, etc. Mais au Japon, les boîtes de production de jeux vidéo, celles de dessins animés, celles qui font les mangas, ce sont des entités qui sont très différentes et qui font partie de groupes totalement différents. Est-ce que le fait que tout soit réuni sous la même enseigne, avec la même vision, est-ce que ça donne pas un peu une envie de se dire, mais franchement on a une fluidité, une liberté telle qu'on peut faire des produits vraiment globaux et qu'on pourrait aller leur marcher sur leur plate-bande?
Sur la plate-bande des japonais? Ouais, bah, pas toutes les plate-bandes de tous les japonais, hein. Et certains japonais, j'irais pas m'y frotter, hein. Mais oui, ça donne lieu. En fait, c'est vrai qu'on a une sensation de. Une vraie grosse sensation de puissance, parce qu'en fait, pour l'instant, quel que soit le. Comment dire? Quel que soit l'univers dans lequel on se plonge, ou la nouvelle structure qu'on crée, à chaque fois on s'en sort bien. Et ça nous donne envie de continuer à se dire, bon, on a besoin de personne. Il suffit de se plonger, de se renseigner, de taffer, d'avoir la volonté de le faire. À partir du moment où on a vraiment envie de le faire, on se lance et puis on le tente. Que ce soit le dessin animé ou que ce soit l'édition, Ça a toujours été ça, ça a toujours été beaucoup de volonté, beaucoup de travail. Mais finalement, il n'y a rien d'impossible. À partir du moment où ça a déjà été fait par d'autres, pourquoi en fait ça serait impossible? Pourquoi on ne pourrait pas le reproduire? Ce qui n'a jamais été fait, c'est, comme tu le dis là, c'est de tout regrouper. Et comme tu l'as bien dit, c'est un énorme avantage, car comme tu dis, c'est fluide. C'est vraiment fluide, c'est-à-dire que là, par exemple, les chouchous de Rochou, au niveau de la convention, on l'a fait en 3 mois, le bouquin. On a fait le bouquin en 3 mois, on a speedé à fond. En même temps, on faisait le stand. Dès qu'il y avait un petit truc à changer, et ben, boum, on pouvait le déplacer tel meuble parce qu'on trouvait que ça correspondait mieux comme ci, comme ça. Le fait de tout gérer nous-mêmes, c'est du boulot, mais on n'a pas de personne qui décide pour nous ce qu'on doit faire. Il y a tellement de projets qui ont été pourris par des producteurs ou par les mecs qui mettaient la thune et qui n'avaient pas la vision de l'auteur, que moi je suis vraiment fier et heureux, tu vois, de dire quand on d'être mon propre patron, quoi, tu vois. Quand j'ai envie de faire ça, je le fais, point. Si ça me plaît, ça me suffit. Et ça s'arrête là, quoi.
On va peut-être revenir dans ce cas-là à des questions beaucoup plus financières. À quand l'IPO, l'introduction dans les bourses?
Non, on nous a déjà proposé un capital, enfin des capitaux risqueurs qui nous ont aussi proposé de prendre des pourcentages, des parts dans la boîte. On n'est pas motivé. Si, je suis content de gagner de l'argent, ça me permet de développer mes projets, mais ça me sert qu'à ça, en fait. Tu vois, aujourd'hui, je gagne bien ma vie, j'ai besoin de rien d'autre. L'argent que je gagne, j'ai pas le temps de le dépenser, de toute façon. Donc, tu peux pas, à un moment, tu dois choisir. Gagner de l'argent et t'amuser, donc voilà. Ou continuer à réaliser tes rêves et puis à bosser. Enfin, moi, c'est mon trip, c'est ce qu'on fait, quoi. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps de prendre des vacances, j'ai pas le temps d'aller dans les magasins me fringuer. Je m'en fous de tout ça. Le but, c'est vraiment. C'est la gloire, quoi. Tu vois, t'as vu 300, bah c'est ça, on est 300, on est des Spartiates, et l'objectif, c'est de. Ouais, c'est de rentrer un peu dans l'histoire, quoi. Tu vois, c'est de laisser une empreinte.
Question empreinte, justement. Et moment, allez, fais-toi plaise. Pour faire venir suffisamment d'actionnaires pour que l'AG soit valide, ex-infogramme Atari a promis à tous les actionnaires qui venaient une boîte d'Alone in the Dark. Alors, à 63 centimes d'euros l'action, qui permettrait d'avoir une boîte, est-ce que c'est pas un petit peu bradé un jeu qui, à une époque, était quelque chose?
Je sais pas, je t'avoue que je suis pas du tout ce qui se passe dans le milieu du jeu vidéo, pour être honnête, comme je suis pas ce qui se passe dans le milieu du l'anime, donc j'avais même pas entendu parler de ça. Sur le truc que je suis un petit peu, c'est l'édition, quoi. Et nous on n'a pas ce problème là, on est trois actionnaires à part égale. Donc les AG, on est obligé de les faire, on les fait parce qu'on est obligé de les faire, tu vois, mais on sait même pas à quoi ça ressemble une véritable assemblée générale. Je sais pas quelle gueule ça a, quoi, tu vois.
Quoi de vue gueule, c'est pas très glamour, tu sais, costard cravate et tout ça, avec des documents comptables épais comme ça, et puis deux commissaires aux comptes derrière et qui certifient conforme.
Bah, tu comprends pourquoi on veut pas filer de part de la boîte à quelqu'un d'autre, tu vois, c'est pour éviter toutes ces conneries, quoi. Le système français est déjà suffisamment difficile, c'est déjà suffisamment difficile de monter ta boîte, si en plus une fois que tu l'as montée, tu passes plus de temps à t'emmerder avec des conneries plutôt qu'à bosser sur tes projets, tu vois, ça vaut pas le coup de le faire, quoi.
Est-ce qu'il y a un autre univers que tu aimerais développer après le médiéval fantastique? Je sais pas. Est-ce que tu aimerais créer de la science-fiction, un peu comme l'a fait Morvan avec Sillage? Est-ce que tu aimerais faire peut-être quelque chose de plus contemporain, un univers global, jeux vidéo, dessins animés, tout ça?
Un gros objectif là pour après Wakfu, c'est un univers orienté sur du super-héros. Donc sur lequel je commence à discuter avec beaucoup de gros auteurs. Qui sont chauds. Donc il y a un gros concept qui est en train d'être développé là-dessus, parce que super-héros, voilà, c'est mes premières lectures. Mon premier bouquin, la première BD que j'ai lu et que j'ai trippé, c'était Captain America, quoi. Donc tu vois, j'avais 10 ans, je me souviens encore de la couve, tu vois, et c'est un truc genre, voilà, un univers super-héroïque.
Tu sais que tu énerves beaucoup de graphistes qui voient tes dessins à la fin des Dofus. C'est du gâchis, c'est quand une BD dessinée par Tot?
Ah bon? Je savais pas ça. Bah, ça fait plaisir à entendre, mais non, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est le dessin sur une. J'ai commencé des choses. Le dessin, c'est pas qu'une question de talent. C'est bien plus que ça. C'est un investissement de tous les instants. Je l'ai fait à une époque. Je peux pas, le scénario, ça va beaucoup plus vite. Je peux me le permettre le soir, c'est une heure et demie à la maison pour faire mon découpage et faire mon scénar. Et si je voulais faire des planches de BD moi-même, j'ai plus de vie quoi. Enfin, déjà que j'ai plus de vie, je ressemble vraiment plus à rien, j'ai plus de femme. Après, j'ai plus de femme.
Question management avec la lumière bleue qui veut gagner des questions très connes. Comment tu fais le matin pour t'en sortir à arriver à serrer la main d'Ancestral Z et que ça dure pas plus de 10 secondes? A. Tu m'envoies ça par email. B. Tu en parles à ton chef. C. Parle à ma main. D. Excuse-moi, là j'ai quelqu'un au téléphone.
C'est plutôt E. J'arrive pas à rester moins de 10 minutes dans le bureau d'Ancestral Z.
Tot, merci beaucoup.
Ah, merci à vous.
Tot, donc, que l'on a interviewé lors du festival Japan Expo à Paris, qui est poursuivi par un aéropage mais, de fans de l'univers de Dofus, de fans des bandes dessinées, de dessinateurs.
Surtout les fans du jeu Dofus, en fait. Hein.
C'est impressionnant et il est mais incroyablement accessible.
On dit pas aéropage, on dit aréopage.
J'ai pas
l'idée de la circonférence.
Non mais tu vois, j'ai pas l'aide contextuelle en direct quand je fais mes textes
orthographiques à la radio, voilà. Ça marche pas.
C'est un petit peu chaud.
Grec,
c'est un petit peu chaud sur les bandes dessinées dont on a parlé. Donc Maliki, on l'a passé l'interview en juin dernier. Il y a eu l'interview de Raph que l'on a passé il y a 15 jours pour The Baser.
Run de la semaine d'avant.
Voilà. Non. C'était la semaine d'avant, pardon, excusez-moi. Et puis accessoirement, donc on a parlé donc du label araignée de chez Ankama. C'était la semaine dernière.
Ouais, tout à fait.
Voilà, tout à fait. L'émission que vous pouvez réécouter en son intégralité, l'interview et tout le reste sur le site de l'émission supplementweekend.tk. On fait une petite interruption. Il est midi et 37 minutes. On a des sorties BD. On a de la série télé, on a de la presse et plein de choses. Vous allez voir, ça va encore péter. Ah, grave.
Veux gras.
Bon, vas-y, crois. Fucking poses. Fucking poses. It's so over now. You can get away with it. You think the light won't be ever lit. It's almost over now, almost over now. Something on your chest, better get it off. There'll be no one left when we set it off. We ain't gonna take it no more. Since it's almost over now, almost over now. You had plenty of time, there was no rush. But it was your dream to be like us. You're in.
the light won't be ever lit. It's almost over now, almost over now. Stop them on your chest, better get it off. There'll be no one left when we set it off. We ain't gonna take it no more. Since it's almost over now, almost over now.
N-I-R-D, nerd. Pas merde, nerd.
Oui,
nerd.
Non, nerd, c'est toi.
Rockstar. Et derrière, c'est Neptune, hein, il faut le savoir. Vous écoutez FMR 89.1 MHz, si j'ai pas de son, qu'est-ce que c'est que ça? C'était sur votre entrée, voilà. Et on va entamer donc les sorties bande dessinée avec bon, de la bande dessinée, format cartonné, couleur, agroné, tout ça, produit de supermarché, surtout que c'est de l'humour, vous allez me dire. Bah ouais, j'avoue, je le reconnais. Pat Perna au scénario, Juan au dessin, Paddock, le deuxième tome vient d'arriver, ça s'appelle Les coulisses de la F1, et c'est chez Vendouès, ça décrit bien justement ce que le lieu est là où va massacrer cette bande dessinée, c'est-à-dire eh ben, dans les gros carburateurs et les voitures hyper calibrées avec des pilotes aux nerfs d'acier et qui sont capables de prévoir, ils sont tellement au top à la fois dans la gestion de leur machine et dans leur réflexe de pilotage, que regarder de la F1 en général, je m'endors devant parce qu'il se passe finalement pas grand chose.
Il faut rester les 10 premières minutes.
Voilà, des fois un mur, mais ça arrive une fois tous les 10 ans. Broken Arm, c'est la plus mauvaise écurie de la saison passée en Formule 1. Soutenu par un gros industriel qui voit plus une danseuse finalement qu'un réel outil de promotion et de recherche. L'équipe est handicapée aussi bien par la rivalité entre ces deux pilotes vedettes, Aldo Vapapiano et Jean-Michel Fringant, mais aussi par le caractère très entier de son mécanicien. Et les inventions partent toujours très heureuses de leurs petits stagiaires qui sont obligés d'accepter parce que c'est gentil, c'est le fils du patron de la FIA, alors voilà quoi. Dans le rétroviseur des séries humoristiques sur les sports mécaniques, auto, moto, avion, bateau, on en a vu des wagons. Non, la blague n'a pas marché, je suis désolé. Et rares sont les séries qui sortent du lot. Certains même se sont enlisés pitoyablement après des albums absolument excellents. Je pense par exemple à la série sur Joe Bartim, avec un tome 5 qui a été catastrophique. Alors pourquoi parler de ce deuxième tome d'une série qui tient plus du produit de supermarché que d'une œuvre artistique ? Eh ben, l'humour pourrait ne pas voler très loin, mais il y a quand même une bonne évolution par rapport au premier tome. Les personnages s'éloignent un poil de la décalque de Franquin. Seul Jean-Michel Fringant ne quitte pas l'éthique de son inspiration BD, on les devine aisément, au point que le directeur de l'écurie ne sait plus trop comment lui expliquer que non, on n'a pas volé les boîtiers d'anti-patinage, non, il n'y a pas de chantage suite à un kidnapping ou quoi que ce soit, c'est juste les nouveaux règlements de la F1, les interdisent, putain de bordel de merde, tu vas les comprendre, bon. Mais il faut pas le froisser parce que c'est un pilote un petit peu susceptible et on va dire qu'il a un peu étroit de couloir. Hein. C'est très bien piloté, mais après, sur la vie...
À fond.
Après, gravier. Ça en revient même étonnant que l'équipe des Broken Rams ne soit pas tentée d'enfreindre ce règlement, d'ailleurs. Franchement, je ne suis pas fan de la F1. Mais je me poile bien à lire cet album. Et j'en vois la progression, ce qui est plutôt encourageant, quand même. On se poile beaucoup. Ça ressemble à du Franquin, encore une fois. Mais justement, ça commence à avoir sa propre originalité. Et ça envoie plutôt bien. Paddock, le deuxième tome, s'appelle Les coulisses de la F1, c'est Pat Pernan et Juan, et c'est sorti chez Vendouest.
J'ai bien observé JB en train de feuilleter l'album, il n'y a pas eu un rictus de rire. Hein.
Non, mais dans Télérama, il ne parle pas de F1.
point. T'es abonné à quoi, Xavier ?
Moi ?
Ouais.
À Cinérotica, on va en parler tout à l'heure. Non, Cinérotica, c'est du sport, moi, c'est Sexy Folies. Complètement autre chose, mais on va rester dans les sports mécaniques, si je puis dire, avec la chasse Et la chasse scellée, un moteur. Avec un scénario de Yann et un dessin de... Un dessin. Une œuvre d'art, excusez-moi, de Romain Hugo. Parce que c'est vraiment magnifique, c'est un très très bel album. Le Grand Duc, le premier tome s'appelle Les Sorcières de la Nuit. C'est dans la collection dédiée à l'aviation historique des éditions Paquet, qui s'appelle donc la collection Copict. Et on est en décembre 1943. L'armée d'Hitler est toujours embourbée dans le siège de Stalingrad, alors que l'Allemagne se fait bombarder par la RAF. Les fanatiques croient encore la victoire possible sur les Boches, sur les Rouges, les Huntermen et tout le reste. Patriotisme et idéologie arrivent-ils toujours à aveugler les soldats ? L'accueil des nouveaux pilotes par Wolf, célèbre as de l'aviation allemande, se fait mordante, brutale et sans illusion. Wolf a pas mal de victoires à son actif, mais aussi beaucoup d'ennemis au sein de son propre camp. Et pour cause, c'est un soldat de la vieille époque. Vous voyez, c'est un peu le, c'est un soldat issu de l'aristocratie qui est plus en opposition avec l'autorité d'Hitler. C'est un anti-nazi qui est allé jusqu'à faire effacer l'insigne nazi de son avion sous prétexte que ce symbole politique n'a rien à faire sur une arme qui ne doit avoir que des armoiries militaires. Inutile de dire que malgré le poids des traditions de l'armée allemande, Berlin voit ce personnage d'un très mauvais œil, comme un opposant de l'intérieur. Mais comme c'est un soldat obéissant et trop connu, eh ben on va pas le saquer. C'est un franc-tireur qui continuera à combattre les Rouges plutôt que l'état-major nazi. Alors qui sont ces fameuses sorcières de la nuit ? Des femmes aviatrices qui vont au combat avec de simples biplans d'observation et qui malgré tout arrivent à faire du dégât chez les Allemands. Difficilement concevable, mais elles restent malgré tout très considérées par les vrais aviateurs militaires. Milieu macho et hautain. Oui. Forcément, même dans l'Union soviétique, le milieu de l'aviation militaire n'a que faire des valeurs prolétaires de guenons aux manettes. Wolf les respecte pour ça, aussi parce qu'elles sont des humains comme les autres. Pour lui, pas question de voir une inégalité quelconque entre les races. La seule mesure qui se vaut dans les combats, c'est le courage, la bravoure et surtout la survie. Graphiquement, c'est très très beau, c'est léché, c'est documenté, il y a très peu de choses à redire derrière. Yann dépeint une armée qui est sur le déclin, la rivalité interne, les jeunes bleus fanatisés pressés d'en découdre, et de vieux briscards, entre guillemets, qui se font plus d'illusions sur l'issue de cette boucherie. Dans ses grandes étendues enneigées, Hugo met en valeur les hommes et les engins. Son dessin est d'une précision impressionnante. Les admirables coucous sont hérissés d'antennes, parfois ornés de peintures personnelles et impeccablement briquées. Quant aux hommes et aux femmes, leurs expressions sont limpides. Ce sont des héros qui domptent des machines d'enfer et qui font oublier qu'au sol, la guerre n'est pas un balai, mais un vrai massacre. Le Grand Duc, le premier tome, est chaudement recommandé par nos soins. Les Sorcières de la Nuit, scénario de Yann, dessin de Romain Hugo, c'est dans la collection Copict chez Paquet. Et à ce sujet, on a reçu un DVD EPK, donc qui est réservé qu'aux journalistes et aux libraires. Je ne l'ai pas encore visionné, donc c'est le making-of de l'album. On va se le visionner en petit comité, mais on va faire gagner ce DVD, ce sera parmi les lots. Donc si jamais vous posez une question intéressante sur le forum de l'émission
ou une question qui fait rire,
enfin le tout c'est qu'on se remue bien les méninges pour se dire comment on va y répondre ça d'une manière à notre sauce, comme d'hab. JB est bien évidemment exclu.
Oui, il fait partie de l'équipe, hein.
Eh oui, il peut pas.
Je n'ai jamais dit que je voulais ce DVD.
Non, mais quand même, le dessin, il a...
Je suis pas très fan, je l'avoue. Mais j'adore ce que fait Yann.
Casseur d'ambiance, va.
Non, mais c'est vrai que Yann, sur les grands polars, il est très bon. Il fait pas que de l'humour comme... les innommables,
oui,
où,
comme les, et encore les innommables, autant les premiers, deuxième tome étaient avaient un côté humoristique, sinon au fur et à mesure c'était vraiment assez hardcore. D'ailleurs, oui, ça a été dépublié carrément de Spirou à la moitié du deuxième épisode, tellement c'était assez trash pour la jeunesse.
C'est pas vraiment ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait fait un dessin où Papyrus, qui était masqué, il avait un bandeau sur les yeux,
oui,
disait « Pour éviter le cancer du poumon, moi je fume par le tugudu. » À l'époque, le cancer de l'anus était très peu connu.
Non, il y avait.
C'était un petit dessin, un cul de lampe là dans les marges. Ça,
ça s'appelait Les Hauts de Page, c'était fait par Yann et Conrad. Et effectivement, il massacrait un petit peu tout le monde qui était publié juste en dessous, notamment Yoko Tsuno ou effectivement, comme tu disais, Papyrus, qui était dit qu'il ne fumait pas que de la cigarette.
Ouais, il avait fait une reprise
parmi les Hauts de Page.
Il avait repris une planche de Yoko Tsuno en intégralité jusque dans le découpage, mais. Avec une vision assez trash, c'était très très drôle.
C'est marrant que t'en parles puisque toi tu m'en parlais cette semaine.
Ah ouais, je t'en ai parlé il y a 2-3 jours effectivement. Parce que je suis gros.
Non,
gros
on a dit
fan.
Pas de discussion off, c'est pas drôle.
Je, non, mais je l'avoue, je suis gros fan des Hauts de Page qui ne sont pas publiés dans Télérama et qui ne sont jamais vu leur caractère assez hardcore. Mais je vous conseille vivement si vous allez, par exemple, à Terre de Légende, que je ne ferai pas de publicité, vous allez juste demander, ils ont rien là-dessus, mais vous essayez de leur rappeler un petit peu quelques souvenirs à ce sujet, ils vous accueilleront les bras ouverts. Ils adorent Yann et Conrad.
Je crois qu'on va passer à du polar, du vrai, du pur, du dur, mais cette fois-ci au cinéma. Donc, allez hop, zou! Les cinémas vous est présenté en Dolby Mono sur Ronde par Thomas.
JB, tu veux...
Ah, strictement rien.
Ah, d'accord.
C'est ton tour, vas-y.
Ok. Donc aujourd'hui nous parlons de Mesrine. Alors c'est Mesrine, je crois que c'est Mérine en plus. Hein.
C'est Mérine officiellement. Enfin...
Mais il avait clairement lourdement pendant son procès dit, on dit Mesrine.
Non, c'est l'inverse.
C'est l'inverse.
Non, c'est l'inverse.
C'est
l'inverse.
C'est les médias qui, quand ils n'ont pas parlé, l'ont appelé Mesrine, mais lui, ça a toujours été Mérine. Et son fils, actuellement très plébiscité en raison de la sortie du film, demande à ce qu'on l'appelle par son vrai nom Mérine.
D'accord. Donc, il s'agit de la première partie du diptyque consacré à l'ancien ennemi public numéro 1. Et la première partie s'appelle L'instinct de mort. C'est un film réalisé par Jean-François Richer avec Vincent Cassel, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Gilles Lelouch, Gérard Depardieu.
Ah ouais, quand même.
Ah merde.
Ah non.
Ah ben justement.
Détrompe-toi.
Et justement, tu dis oh non, et encore Depardieu. Et ben en fait, non, il est impressionnant dans le film. Alors cette première partie du diptyque montre les débuts de Jacques Mérine dans le grand banditisme, des interrogatoires menés pendant la guerre d'Algérie jusqu'à son évasion spectaculaire d'une prison québécoise. Et le futur ennemi public numéro 1 se fait un nom dans les médias et enquille accessoirement les conquêtes féminines. Alors le film, ne cherche pas à idéaliser le criminel puisque on voit, bon, c'est un mec qui était violent avec la mère de ses enfants, raciste, salopard intégral puisqu'il va se compromettre dans le kidnapping d'un handicapé. C'est un meurtrier qui était à cheval sur un certain code d'honneur, mais en même temps bourré de contradictions puisqu'il en bafouait d'autres. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on sent un peu dans les articles qui sont autour du film. Sentir une espèce de volonté de faire naître un mythe à la Tony Montana. Mais en fait, c'est pas du tout la même chose, puisque Tony Montana, c'était dans le milieu de la drogue, il se battait contre des criminels de son espèce, alors que, bon, Mérine, il a quand même tué pas mal de monde, des innocents, et il a...
Il se battait
contre les flics.
Contre les flics, mais surtout contre lui-même.
Aussi. Certaines scènes sont autant de grands moments de cinéma, puisque, bon, il y a quand même du très gros et du très grand dans le film, avec cette fabuleuse scène où justement il va commencer à perpétrer des assassinats avec une scène dans la bagnole avec Depardieu qui est son mentor un macro qui a tabassé une pute qui était dans l'entourage du personnage de Depardieu et de Mérine. Là on voit la tension qui commence à grandir et on pourrait dire que c'est un peu la pierre angulaire du film d'ailleurs. Il commence à balancer une blague raciste qui est plutôt rigolote et Depardieu en remet une couche. Alors là par contre ça fait pas rire du tout et tu vois que juste dans des regards et un jeu d'acteur vraiment contenu et très pertinent dans la voiture, tu vois que c'est là que tout bascule. JB,
tout à fait, parce qu'on t'a le voir ensemble effectivement.
Oui, voilà.
Tu penses que au départ le Mac est couvert par Depardieu qui est le boss de Cassel qui est juste le conducteur. Cassel balance une blague, très bien. Qui est, c'est vrai, peut-être teinté de raciste, mais pas tant que ça. Et tout le monde en rigole, au contraire. Le Mac en premier. Mais quand tu as Depardieu qui commence à lui en vouloir en sortir une autre, là tu te dis, tu n'es plus dans la même ambiance et tout se bascule. Et c'est vraiment excellent.
Voilà, et là c'est une sacrée leçon de jeu d'acteur, puisque c'est aussi la manière de raconter la blague. Tu vois que c'est pas vraiment le même climat. Il y a quelques inventivités qui font plaisir dans le film, notamment cette scène d'ouverture qui est construite en split screen et qui est composée de plusieurs prises pour une même scène. C'est personnellement la première fois que je vois ça, puisque tu vois Mérine en train de regarder s'il n'est pas un peu poursuivi dans la rue, en train de remettre ses lunettes, en train de faire certains gestes, et tu vois que ce sont plusieurs prises qui sont mises un peu décalées. Alors tu crois qu'au début c'est juste un décalage, mais en fait non, il remet ses lunettes plusieurs fois et tu vois que c'est pas du tout la façon de mettre ses lunettes. C'est une façon de dire, il y a eu beaucoup de points de vue sur Mérine, il y a eu beaucoup de témoignages, des bouquins qui sont sortis, ben en fait voilà, c'est une vision là-dedans, on va se concentrer sur une, et ou alors c'est justement,
un portrait en fragments.
Un portrait en fragments où on a beaucoup recoupé tous les témoignages, et voici ce qu'on peut raconter sur la carrière de Mérine dans le grand banditisme. Ensuite, c'est un film qui ne manque pas de souffle. Hein. C'est vraiment porté, c'est un film de à peu près 2 heures. Et c'est vrai que ça ne s'essouffle jamais, c'est en rythme coulé, les changements de rythme sont absolument parfaits. Alors, est-ce qu'on peut autant parler de chef-d'œuvre ? Alors, à mon sens, non. Puisque même si le film démarre pied au plancher avec beaucoup d'inventivité, c'est vrai que pour ma part, le film a tendance un peu à sombrer dans le plus convenu dans la dernière partie. Pour s'achever sur une scène de fusillade qui ne propose pas grand-chose au niveau de la réalisation. Par rapport à d'autres sommets du genre, comme on pense inévitablement à Hit, au niveau de la position des assaillants et des échanges de coups de feu. Et c'est vrai que il faut quand même prendre en compte que c'est un genre auquel tu t'attaques, et il faut prendre en compte les films qui ont déjà parsemé le genre de chef-d'œuvre. Donc c'est un petit peu le bémol. Surtout, le film s'achève sur une scène qui, pour ma part, flingue complètement le rythme crescendo du film. Une scène un peu plus, pas en huis clos puisque ça se déroule dans une forêt, mais un peu plus avec un nombre de personnages assez restreints. Et c'est vrai que le film qui se clôt sur cette scène, c'est assez étrange. Donc, certains choix pour ma part un petit peu pas douteux mais à discuter, mais c'est quand même un film qui vaut vachement le détour et qui est césarisable, en tout cas dans plein de catégories.
Déjà pour la prestation de Cassel.
Ah oui, bon là.
Mieux qu'il n'a vraiment rien à redire. On voit Cassel sous des formes physiques très différentes. Même juste pour une petite scène, là, notamment à ses débuts, il est.
Oui, en Algérie.
De G-Sketch, tu dis, mais attends, comment est-ce qu'il a fait pour être aussi maigre, aussi costaud? Il s'est bien rembourré dans la scène d'après. Tu dis, waouh, le mec, il a vraiment fait du très bon, très très bon boulot d'acteur. Bon. Après, comme dit Thomas, c'est vrai que le film est malheureusement démarre très bien. Mais ce que je veux dire malheureusement, c'est qu'il est assez inégal dans l'ensemble. Il y a des scènes où tu dis chouette, et à un moment, tu dis, bon, je commence à m'ennuyer. Notamment, puisque cet acteur a déjà fait d'autres films, genre Assaut sur Central 13. Pareil,
Le réalisateur Richer, oui. Ouais. Donc Jean-François Richer, on va dire 2 mots sur le gars, puisque le grand public le découvre un peu aujourd'hui. Il faut savoir qu'il avait fait, justement, j'y bien en parler, le remake de Assaut de Carpenter, qui est Assaut sur le Central 13 avec Ethan Hawke et Gabriel Byrne. Il avait auparavant réalisé De l'amour avec Virginie Ledoyen et Stommy Bugsy, qui était vraiment pas mal. Et il s'était aussi fait remarquer avec Ma cité va craquer, qu'il avait un peu catalogué réalisateur de films de banlieue un peu hardcore.
Et celui qu'il avait fait juste avant, son premier film, État des lieux, qui est vraiment aussi très très bien, hein, faut pas l'oublier non plus, quoi.
D'accord. Alors on a commencé à parler du casting, on a dit aussi que Depardieu c'était du costaud. On regrette un petit peu, c'est vrai qu'on n'est pas trop d'accord avec JB, puisque il y a la première confrontation entre Mérine et son futur mentor Depardieu, qui pour ma part avait déjà été montré dans la bande-annonce, et on s'attendait à ce que ça soit un grand moment de cinéma, on va pas se le cacher non plus, à la De Niro Al Pacino dans Heat, ou vraiment une confrontation verbale qui fout un peu le jeton, qui te cloue sur le siège. ça, cette scène fonctionne, mais tu t'attendais un petit peu plus. Depardieu, c'est du costaud. Gilles Lelouch, impeccable. Cécile de France, craquant à souhait. Ludivine Sagnier, on sent qu'on va la retrouver également dans deux, parce qu'elle a une courte scène vers la fin de la vie de Mérine. Et JB parlait de la prestation physique de Cassel. J'ai vu sur une interview de Richer et de Vincent Cassel, justement, comment ils s'y sont pris. C'est bien simple. Vincent Cassel a pris 20 kilos avant le début du tournage et il a maigri au fil du tournage, puisque le stress et le rythme du tournage font que son corps a maigri. Et la scène dans de l'interrogatoire en Algérie, et c'est la dernière scène qu'ils ont tournée. Il a refait le sketch à la fin du tournage. Ils ont tourné le film à l'envers. Voilà, donc il a fait un petit peu son De Niro. Donc on rappelle la référence. Donc il s'agit de Mary, l'instinct de mort, la première partie. La deuxième partie, je crois, sort le... Je voudrais pas dire de bêtises. Le mois
c'est en novembre, moi je dirais vers le 19, mais j'ai pas d'agenda.
Allez, grosso modo, dans un mois. C'est un film de Jean-François Richer qui est sorti mercredi dernier avec Vincent Cassel, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Gilles Lelouch et Gérard Depardieu.
Avec un tel casting, on se demande si c'est pas un peu une manie chez ce producteur de
Thomas Langman.
Ouais, ouais. Mais en général, quand tu fais des très grosses productions avec beaucoup de comédiens, c'est un peu un mélange qui est mal assuré, qui est mal fait. Surtout sur les personnages un peu gros, style Obélix.
Non, là c'est correct.
c'est pas correct. Astérix 3, d'accord.
non. Non, là, c'est
on a mal répété le gag, hein, comme je l'avais dit. Voilà.
Que Longman reste au producteur, tant mieux pour lui.
Oui. J'ai failli ne pas le reconnaître.
Ah, t'as failli pas le reconnaître, hein.
C'est pas Elvis?
Si. Le King.
J'avais eu le titre avant d'envoyer le disque, mais et enfin la ligne entière, mais c'est vrai que pas mal.
Ouais, alors c'est pourquoi on passe ce morceau là, qui est un truc techno d'un morceau d'Elvis qui avait déjà été fait, je sais pas si vous vous rappelez là, le gros tube, le dernier tube du King.
C'était Number Ones, compilation de remix.
C'est un clip pour Nike, non, avec des footballeurs.
Non,
le remix de Fatboy Slim.
Ouais, c'est un remix et tout qui avait très très bien marché.
Il avait illustré une pub pour le sport, je sais
pas. C'était un morceau, si je ne me trompe pas, pour Ocean 12.
A little more action.
Et c'était, ouais. Je suis pas sûr que c'était Fatboy, mais je pensais plutôt à la.
C'est Fatboy, et d'ailleurs, ils ont pas eu droit dessus. C'est-à-dire que les droits sont allés intégralement à la famille Presley, donc lui, il a juste fait comme opération de prestige.
Bah, logique, hein.
Très bon morceau.
Alors là, c'est parce que c'est un morceau qui est extrait du nouveau disque, de la bande originale du film, qui ne sortira malheureusement que le 19 novembre, le même jour que le Mesrine 2. Donc, et il s'agit de J'irai dormir à Hollywood. Et pour les gens qui regardent un petit peu la télé, surtout la 5, où il y a peut-être les chaînes de voyage, et bien vous connaissez cette émission d'Antoine de Maximi qui s'appelle J'irai dormir chez vous.
Et c'est
ça vous dit quelque chose?
C'est l'adaptation cinéma.
Alors là, il s'agit d'un film, un long métrage donc, et qui raconte donc le petit dédale que va faire Antoine de Maximi aux États-Unis pour arriver à Hollywood. Et donc c'est illustré musicalement. Et là, parce que c'est un film, c'est la première de Béatrice Ardisson qui nous avait habitué à ces espèces de remix improbables et ces covers improbables,
compilations,
les compilations. Voilà, d'accord, ok. Et là, c'est la première fois donc qu'elle fait une musique de film et qu'elle l'a fait en, compagnie de Fabrice Viel, qui signe la plupart des musiques originales. Alors bon, le thème est toujours plus ou moins le même, hein, c'est-à-dire c'est le blues, c'est le la country, un petit peu de rock and roll comme ça, mais avec quelques petites curiosités assez sympathiques, telle la reprise country de Staying Alive qui vaut son pesant de cacahuètes, d'autres œuvres qui sont alors elles complètement originales, faites exprès pour le film. C'est pas mal de toute façon pour les gens qui aiment bien. Cette émission hein, qui est sympa, il hein, y a des bonnes émissions. Hein. Je ne vais pas dire que tout est bien, quoi, mais des fois c'est pas mal. Ça va valoir son pesant de cacahuète, à mon avis, ce film. Donc j'irai dormir à Hollywood. Un petit quiz à présent.
Pour le coup, t'aurais pu quand même l'annoncer la semaine prochaine.
Hein, ah bah
pour la spéciale États-Unis.
Oui, mais j'en aurai d'autres.
Bon, on repassera des morceaux qui sont dans la
compil. Hollywood n'est pas aux États-Unis.
Un petit instant, là, je suis en train de caler le fond.
Ah, vas-y.
On embraye direct ou on fait une coupure hein? Embraye direct, allez, soyons fous. Donc, nous parlions de Vincent Cassel dans le film Mérine. L'occasion de souligner que Vincent Cassel a interprété pas mal de rôles de salaud et en tout cas pas mal de rôles de bad guy. Et ce quiz va porter sur le thème Vincent Cassel est un bad guy ou en tout cas commet des actes qui pourraient l'apparenter à du bad guy. Alors attention, la nuance est importante. Alors, il faut trouver le titre des films. Alors, okay. Je suis un voleur qui s'appelle le Renard de la Nuit.
Ocean 12.
Ok. Je suis un voleur de bijoux pour un patron de casino.
C'est pas Ocean 12 aussi.
Agent secret.
Non, Ocean 13.
Je voulais le dire en plus, là, quoi.
Je suis un assassin en manteau en cuir, ma copine est une bombasse.
Doberman, agent secret. Ah, merde.
Ok.
Doberman,
oui.
Je suis un célèbre gangster français mort il y a 30 ans.
Mesrine.
Ok, je note à chaque fois. Je suis un psychopathe atteint de gangrène.
C'est dans Shaitan.
Non. Le pacte des loups.
Oui. Oh, ah ouais, oui, gangrène ou syphilis oui.
C'est la gangrène qui attaque le bras.
La syphilis, ça attaque ailleurs. Hein.
Ça
c'est
attaque partout.
Ouais, c'est le bras. Je suis un mafieux russe tatoué.
Les ombres, le plus de l'ombre.
Ah bon, égalité entre du sport et JB. Je cède au réflexe de l'autodéfense.
De l'autodéfense. Bon, t'as qu'à dire n'importe quoi. Hein.
Presque. Ah,
Blueberry.
Non.
La haine, je sais pas, l'appartement.
Allez, c'était un défaut de formulation, c'était irréversible. Je sors de prison et ma nouvelle de Vos fait une fixation sur ma bouche.
Sur mes lèvres.
Je suis un bandit vivant dans la forêt, Monsieur Desbois.
Je suis quoi?
Je suis un bandit vivant dans la forêt, je m'appelle Monsieur Desbois.
Robin.
Faut trouver le film.
Monsieur Desbois. Ça ressemble à une comédie qu'on a jamais vue.
Non. Shrek.
Ah ouais.
Oh punaise.
Je fais la voix.
Il fait la voix.
Je suis un seigneur de la guerre assoiffé de sang aux ordres d'une pucelle.
Ah oui, c'est dans. Ah mince. C'est.
Elisabeth.
C'est. Jeanne d'Arc. Hein.
Voilà, c'est bien. C'est à moi que tu parles.
Ah bah, la haine.
Et. J'ai flingué ma nana et je vois des serpents lumineux dans des grottes.
Ah bah, ça, Blueberry. Je viens de lire.
Alors, une petite majorité pour JB, mais c'est très serré. Voilà.
J'avais un avantage, j'avoue.
Allez, un peu de lecture encore avec des nouveautés.
Du loup.
Alors, des nouveautés. Alors, on va commencer par l'habituel comic box de la fin d'année sorti avec un spécial Marvel Zombie, avec un rappel des fêtes pour ceux qui connaissent pas Sandman à fond les manettes, avec une interview malheureusement trop courte de Garth Ennis. Elle fait que 2 pages. Alors que généralement, les autres, ils en ont 4 ou 5, tu sais, quoi. Et là, bon, Garth Ennis, putain, oh, génial. Putain, il n'y a que 2 pages. Oh, pardon, excusez-moi, je parle très mal. Du côté des.
Mais en même temps, si les casseurs de cervelle éclataient pendant l'interview, c'est normal.
Ouais,
que...
non, mais plutôt ce qu'il va foutre et tout. Enfin, bon, quels sont ses projets.
T'as dit qu'il y avait quelque chose sur Sandman, hein.
Ouais.
Ah, il y a alors, plus que 4 voilà, pages.
Sandman.
Ah,
bah, vous avez pas la couleur, mais en fait, d'accord. On est 3 autour du sport.
Alors, du coup,
alors voilà, c'est où ouais, regarde ensuite, la page, il y a Sandman. Ouais, cool.
Alors, ensuite, il y a la page désormais trop traditionnelle, le carnet noir, quoi, de ceux qui nous ont quittés. Et on n'a pas parlé de Francis Lacassin qui est mort au mois d'août. Alors ça, de la part de gens qui font de la BD, c'est inexcusable, mais complètement inexcusable.
C'est vrai que la brève est passée sur un club BD, on n'en a pas parlé.
Voilà, bah ouais, voilà. Mais bon.
Enfin, bref, il a eu.
Franchement, pour ce mec, faire une brève, c'est carrément l'insulter. Alors bon, la prochaine fois, faites mieux, quand même. Jack Kamen également, hein, qui était plutôt un spécialiste qui dessinait les comics, mais lui, c'était plutôt spécialisé dans les nanas assez courts des vêtus, mais avec des belles formes et tout. Et pas encore du silicone, s'il vous plaît, hein, parce que bon, il est né en 1920, le mec, tu vois, il a commencé avant la Deuxième Guerre mondiale, donc il connaît un peu le sujet. Carlos Meglia également, un Argentin, qui avait 52 ans, mort également en août dernier.
Un illustrateur, donc, vraiment très grand spécialiste des noirs et blancs sur les grands aplats, et qui a fait des polars fabuleux.
Oui, qui a travaillé également donc dans le monde des comics, en particulier pour DC. Sinon, au niveau des interviews, il faut que je retrouve le sommaire. On a, outre notre ami Garth Ennis, il y a Mark Brooks également, Keith Giffen, Joe Madureira, Duncan Fegredo et Frazier Irving. Et là, Frazier Irving, là, c'est pas mal parce qu'il y a les planches contact et tout, donc des fois, ça le fait quand même un petit
oh
peu.
Là,
là des fois, ça...
Oula
ça,
Oula
surtout moi j'aime bien celui-là.
Ah ouais, Hulk en Père Noël.
Hulk en Père Noël avec les petits cadeaux et tout. Très sympa.
Je vais chercher la serpillère là.
Et le petit Iron Man juste à côté de lui. Enfin bon, des petits trucs comme ça, sympathiques. Bon, tout ça donc dans le nouveau numéro de Comic Box. Sinon, j'aime bien me procurer des nouveaux numéros 1, c'est-à-dire des magazines qui sont, dont c'est le premier numéro, puis après je ne l'achète plus jamais, parce que des fois, bon, bah, tu tombes de haut quand même, quoi.
Quelque chose me dit alors, que ça ne va pas être numéro 1 sur les tracteurs.
Là, déjà, le numéro 1, Bollywood Stars. On en a rêvé, ils l'ont fait. C'est le premier périodique, c'est le premier magazine donc consacré au cinéma indie et au cinéma de Bollywood, hein, l'actualité des stars et du cinéma indien en français et en France. C'est-à-dire que ça existe dans d'autres pays d'Europe. Bon, l'Angleterre, c'est normal, hein, il y a une traduction, on va dire, coloniale, on va dire.
C'est pas mal.
Mais également dans d'autres pays européens comme l'Allemagne, comme la Hollande et d'autres pays un peu plus nordiques, hein, qui adhèrent à fond les manettes et dont le fonds de commerce, on va dire, est un petit peu plus important. Et donc, de ce fait, eh bien, c'est pour ça que ça se débrouille un petit peu plus.
C'est pas JB, puisque tu es en train de bailler. Et non, mais c'est aussi parce que là-bas, il y a une très forte population d'immigrés qui viennent d'Asie et que
tout
le cinéma bollywoodien. Explose royalement.
Je le conçois tout à fait en Angleterre notamment. Ouais.
Alors le contenu, eh ben le contenu, on va dire, déjà bon, c'est pas.
Ça a l'air coloré.
La jaquette. Ah oui. Ouais, mais c'est normal, hein, c'est Bollywood. La jaquette, la mise en page. Bon, on va dire que ça s'apparente un petit peu à un magazine de fans. D'ailleurs, ça a vraiment l'impression que ça donne à lire les différents petits articles et articulés les gens qui écrivent là-dedans sont vraiment des fans, apprécient le genre de toute façon et s'y connaissent aussi un petit peu, un minimum quand même. Et c'est somme toute assez agréable et tout. Moi ça me rappelle quand je lisais Podium que j'avais 15 ans. Ah ouais, non mais je le pique à ma soeur pour voir quoi, tu vois.
Ça existait déjà à ton époque?
Un peu, ouais. quand même. Alors, au niveau du contenu, déjà des trucs très très rigolos. Alors concernant les petits potins des stars et tout, alors Shah Rukh Khan est omniprésent pratiquement sur chaque page, et dont le clash de l'été entre Shah Rukh Khan et Salman Khan, un jeune acteur bollywoodien qui se la joue bad guy à fond les manettes et toujours bourré, il fout de l'escande partout. Mais bon, il a pour lui le fait de venir d'une famille dans le cinéma indien qui est très très très
influente.
Très influente. Voilà. On apprend également, il y a tout un article sur la vie de Aishwarya Rai.
Oh putain, ça.
Bachchan, car elle est mariée avec Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan, qui n'est autre que le fils de Abhishek Bachchan, qui est parfait dans le rôle des méchants, je vous l'accorde, qui est un acteur assez intéressant, de toute façon. C'est lui là, le papa de la dynastie, donc, et qui est également à la tête de plusieurs maisons de production de cinéma indien, n'est-ce pas? Vous voyez, ok. Sinon, il y a également au niveau musique, on ne parle pas uniquement que de cinéma. Alors bon, à la fin, il y a bien entendu une petite, quelques petites pages pour chroniquer des films bollywoodiens qui sont sortis il y a pas longtemps. Il y a la vidéothèque idéale de Bollywood. Ah, que j'ai carrément un de ses films, quoi, tu vois, dedans, quoi. Lagan, quand même, quoi. Il y a Devda, donc ça, on connaît. Moser India, c'est un des fondateurs du genre, du nouveau genre, on va dire, hein, début des années 80.
Est-ce que c'est un top des films sortis en France ou un top tout
court ? Non, c'est pas un top, hein, c'est simplement, bon, ok, pour avoir une approche au départ du cinéma d'Hollywood, bon, ok.
Faut commencer par cela.
Ce sont des films relativement classiques, on va dire.
Quoi. Et si après, tu en faisais un top, un de ces quatre
Ouais, faut voir, quoi. Non, mais bon, par contre, on pourrait faire très bien le top 20 réalisé par Radio Nimbunda, une radio qui émet sur le net et qui ne diffuse que de la musique de Bollywood. Alors en ce moment, c'est Judai qui est numéro 1 avec Janat. Et il y a également.
C'est quoi le site?
Le top 5.
Allez, le 5, le 5ème.
Ah, le 5, Diwangi, Diwangi, la chanson du film Om Shanti Om avec Shah Rukh Khan, bien sûr.
Yes.
Numéro 4.
Ma, avec Tare Zamin Par.
Numéro 3.
Kia, Kia, avec Welcome.
Numéro 2.
Jisak Nabatana, le remix, Pranali.
Numéro 1.
Judai avec Janat. Et il y a même, alors là ça tue, il y a même la chanson d'Akshay Kumar, Sing is King, enregistrée en duo avec Snoop Dogg, dont vous avez les paroles.
Oh punaise!
Vous pouvez faire karaoké carrément.
Sing is King avec deux N.
Sing is King, ah bah ouais, attends, il n'y en a que deux là pour l'instant. On apprend aussi quelle est la nouvelle super production qui va déferler chez nous en fait et qui s'appelle Jodha Akbar, un film très gros budget. Alors c'est le plus gros budget du cinéma de Bollywood jamais tourné et tout. Et bon, quand tu regardes le chiffre, t'es là, tu te pisses dessus de rire. C'est 12 millions de dollars. Mais pour ce prix-là, eux, ils te foutent 3 ou 4 000 figurants, des décors à tomber par terre et tout. Et surtout,
tournent,
bien entendu...
Ils tournent beaucoup en Suisse et dans les Alpes.
Hein. Et bien entendu, ouais. Et avec justement les deux valeurs montantes du cinéma, bien entendu, Aishwarya Rai, bien entendu, Bachchan, et Hrithik Roshan. Hrithik Roshan, qu'on connaît, là on reconnaît pas bien parce qu'il joue... Alors c'est une histoire authentique, hein. D'un roi moghol qui envahit une province de l'Hindoustan et donc qui se fait offrir une femme, quoi, c'est-à-dire parce que c'est le patron et tout, quoi, donc il a le droit de choisir le seigneur déchu, lui file sa fille pour que il massacre pas tout le monde et bon, ils vont apprendre à se connaître et tout, donc c'est une histoire d'amour mais avec très épique et tout, et ça marche très très fort, et donc avec Hrithik Roshan qu'on connaît bien entendu parce que c'est lui le héros de Mission Cachemire. Également le héros de Krish ou de Doom. Le Doom 2 d'ailleurs, quoi. Pas le Doom 1, quoi. Si, Doom 1, il est également dedans, quoi. Et bon,
non mais prochain, arrêtez de me regarder comme ça, vous deux. JB et Thomas avec les regards interrogatifs.
Et c'est, filmé justement par... Alors là, si j'arrive à retrouver le titre, quoi, du réalisateur... non, tant pis, c'est le mec qui a également fait Lagan avant, justement, quoi, tu vois, quoi. Et qui est donc derrière tout ça. Ashutok Garwinger, Gowariker, voilà, c'est ça, quoi. C'est le nom du mec qui fait donc Jodha Akbar. Akbar, donc, qui veut dire le saint, et qui est le surnom de l'empereur moghol, quoi, justement, quoi. Qui doit devenir, arriver à devenir saint, justement, quoi. Saint, avec un T à la fin, bien sûr. par rapport au fait qu'il occupe donc un pays qui lui appartient pas et qu'il veut conquérir également le cœur de sa belle. Ah, c'est magnifique, c'est beau, c'est beau. Donc tout ça dans Bollywood Star, qui est un BL, donc qui va paraître tous les deux mois. Là, c'est numéro de septembre. Donc le prochain, ça va être bientôt là, en novembre. Un registre complètement différent et j'avoue que je serais pas tombé dessus, je l'aurais pas acheté si j'avais pas été aiguillé par un petit articulé paru dans Mad Movie. Signalant la sortie justement de ce nouveau magazine qui va avoir une durée limitée. Alors c'est bien parce que bon, bah justement, quoi, dans le texte d'introduction, on nous le dit, tous les mois pendant 2 ans, nous explorerons l'incroyable richesse d'un cinéma hexagonal qui fut l'un des plus inventifs et des plus variés d'Europe. dans l'érotisme et la pornographie.
Punaise, on les a lâchés.
Ah oui. Ça s'appelle Cinérotica. Avec, alors tu la reconnais là, c'est qui?
Moi j'ai lu tout à l'heure.
Alors c'est qui?
C'est Arletty.
Bon, pas du tout.
Non,
c'est
Pierre.
Bon, attends, regarde la différence entre Arletty. Où elle est Arletty?
Ah ouais, c'est le cinéma des années 30 et
oui,
tout ça.
Oui, on voit ses seins à un moment donné sous la,
la scène cachée, ouais, la scène coupée.
C'est au début.
La scène coupée, quoi.
Là.
Voilà, bah c'est pas Arletty là. En
ah non, c'est vrai.
C'est pas du tout la même.
Non, c'est vrai. Eh ben, je sais pas.
Ça, couverture. C'est dans Le Jour se lève. Enfin, c'est une scène qui n'est pas sortie, mais qui avait été tournée dans Le Jour se lève, hein, de Carnet, quoi. On la voit, mais on voit pas les nibards, quoi. On la voit quand elle sort de la douche dans le film, quoi. Alors, ça, c'est Viviane Romance, bien sûr. Aïe. Alors, c'est initié.
C'est édifiant, pardon.
Ouais. C'est initié par un monsieur qui s'appelle Christophe Beer, ou Bière, ça dépend comment vous prononcez, enfin comme c'est Beer en allemand, quoi, ok. Hein, et qui, depuis quelques mois, on va dire presque une année, a sa petite rubrique dans le Mad Movie, où il parle surtout des genres un peu déviants et des femmes SS dans les films, des trucs comme ça, enfin bon, des trucs un peu zarbes quand même, et qui donc, sur 2 ans, va nous proposer le ciné érotica, alors avec quelques articles de fond, plus ou moins historique qui concerne le genre précité, hein, c'est-à-dire l'érotisme et la pornographie, bien entendu. Là, dans ce premier numéro, eh bien, on a droit aux années 30 et au porno clandestin, plus quelques petites choses assez rigolotes. Et surtout, et ce pourquoi le magazine est fait, eh bien, c'est pour arriver à constituer, à l'instar un peu de ce que fait Mad Movie, Jean-Pierre Putters, hein, dans la fin du Mad Movie de pratiquement chaque mois, l'encyclopédie du cinéma de science-fiction. Là, ça va être dictionnaire du long métrage français érotique et pornographique, 16 et 35 mm. Alors là, bon, on peut dire que c'est assez complet, hein, on va dire, ça commence par A.
35 mm,
ouais. Ouais, non, les films qui sortaient au cinéma, hein, parce qu'avant, les mecs, ils n'avaient pas de cassette
vidéo. J'ai compris centimètres, moi.
Avec le premier film à bout de sexe, un film de Corbière, quoi. Alors bon, c'est quand même pas n'importe quoi, tu vois, quoi. Bon, tout ça. Donc dans ce numéro de Cinérotica, c'est le nouveau, c'est le numéro 1. Donc bon, on peut dire que ça coûte quand même relativement cher, hein, par rapport au nombre de pages, hein, vu que il y a 36 pages, ça coûte presque 5 euros. Donc mais le sexe, ça coûte cher, c'est comme ça. Hein. Avec la drogue et les armes, c'est ce qui rapporte le plus. On te le dit pas à longueur d'année.
Et c'est taxé à 33%.
Ah ouais.
Coupure musicale, ouf, pitié.
Ladies and gentlemen, many songs have been written.
More horizons, yes baby, yes.
Ladies and gentlemen, many songs have been written.
Ça s'appelle un replay, désolé. Yes, baby, yes, more reasons. Et je t'ai plongé dans la lecture assez... JB et Thomas, eux, c'est de l'illustration. Moi, c'est plutôt les documents de ciné érotique qui sont très intéressants.
Ouais, vraiment large.
Non, justement, au-delà du cul et tout ça, et surtout sur ce qu'on qualifiait d'érotique entre 1900 et 1939, c'est pas mal du tout. Hein. Ça vaut le coup,
hein, de toute façon. Quoi. Ouais. Alors, il y a un abonnement qui est possible, hein, bien entendu. Et il y a également, qu'il travaille pas avec une équipe de rédacteurs, tout ça et tout, quoi. Il travaille en très petit comité. Mais par contre, il travaille en association avec des gens qui sont dans le milieu du cinéma. En particulier, la Cinémathèque de Toulouse, la Cinémathèque de Paris, la Cinémathèque de Lausanne, ainsi que des collectionneurs privés.
De toute façon, les cinémathèques étaient des organismes privés auparavant et pouvaient se permettre, justement, d'avoir ce genre de collection. Ce qui n'était pas le cas, justement, des organismes publics.
Donc globalement quoi, un septième des illustrations dans Ciné Erotica qui viennent de la Cinémathèque de Toulouse directement ou indirectement. Hein, donc voilà, mais bon, et puis bon, c'est un genre. Hein.
13h29.
Hein, d'accord. Alors, dans un
on a un stade toulousain, stade français tout à l'heure. Hein.
De la série vite fait avec la peut-être bonne surprise de cette fin d'année, parce que bon, moi je suis relativement déçu hein, par les nouveaux blockbusters qui sortent et tout, et puis les nouvelles séries. Enfin, j'ai pas vu Dirty Sex Money parce que ça passe sur Canal Plus, tant pis, hein, mais pareil que ça déménage bien. Par contre, bon, un petit peu déçu, mais je remarque également que ça fait quand même que l'effet bulle qui enfle comme ça quoi et qui concerne la série télé américaine qu'on va acheter à tour de bras et qu'on rediffuse en France en se disant que ça va faire un carton, ben c'est encore un petit peu on est dans le creux de la vague à mon avis, on est redescendu un petit peu, on n'a plus d'œuvres aussi magistrales qu'il y a quelques années hein, comme Soprano, comme Oz, des grands trucs, des grandes fresques,
ouais, des petites
bien
séries,
jouées
quoi.
Des bonnes séries, Homicide, enfin bon, j'en passe et des meilleurs hein, c'est quand même très très rare maintenant hein, et le produit est devenu de plus en plus formaté, il hein, y a qu'à voir la manière dont c'est filmé et tout, il y a très très peu de différence. Ouais. Entre l'approche visuelle, quoi, picturale, quoi, des différentes séries. Globalement, hein, y a quand même quelques exceptions, bien sûr. Alors, Saving Grace, ça démarre ce soir sur TF6. Et c'est avec une certaine Holly Hunter dans le rôle principal. Également, comme productrice de la série, hein, ça l'a vachement intéressé, ce rôle de nana flic ayant passé la quarantaine, proche de la cinquantaine, qui se bourre la gueule, qui baisse des mecs à tort et à travers et tout quand elle est bourrée, et qui est assez rude, on va dire, dans son boulot. Et tout change pour elle le jour où, roulant bourré bien entendu et tout, elle pète sa Porsche et en même temps elle renverse un mec. Et bon bah là, gros choix cornélien et tout, qu'est-ce qui va se passer et tout, flic bourré au volant qui renverse quelqu'un, c'est pas toujours bien vu. Et tout va changer parce qu'elle va voir apparaître un ange. Et cet ange va lui proposer de qu'elle se rachète. Et donc à partir de là, bien l'histoire va démarrer. Donc l'histoire de Grace, va-t-elle être sauvée et comment va-t-elle être sauvée? C'est le propos qui a malgré un pitch un petit peu courrier, a ramené pas mal de monde et a fait que cette série a réussi le cap de la première saison et que TNT a décidé une chaîne du câble américaine a décidé de commander une deuxième saison donc pour cette série qui s'appelle Saving Grace, qui outre Holly Hunter en tant que productrice et dans le rôle de Grace, Anna Darko rôle principal.
TNT est une chaîne plutôt adulte et il y a une série qui est passée en France, The Closer.
Ah bah The Closer, voilà. Ouais. Hein, c'est-à-dire que leur gros succès également, c'est The Closer avec Kyra Sedgwick, hein, qui marche très très fort également là-bas. Et donc c'est pour ça que on continue à avoir des Closer saison 4, voire saison 5 bientôt.
Très fort, c'est 7 millions. TF1 pourrait faire un effort pour avoir 7 millions d'audience.
Ah ouais, mais enfin bon. Il y a également Kenny Johnson dans cette série avec qu'on avait déjà vu dans The Shield, Laura San Giacomo de Voilà et Gregory Norman Cruz qui jouait dans Esprit Criminel. Sinon, nouvelle série également. Et là, ce sera sur Comédie. Alors, j'ai deux horaires, mais bon, je vais me référer uniquement à l'horaire que j'ai repéré dans mon canard de télé, parce que généralement il se plante pas, du moins au niveau des horaires. C'est la nouvelle série instillée par Simon Astier.
Alias,
le frère de Alexandre.
Alors, c'est celui qui avait créé Off Prime, alors.
Oui. Hein, oui, tout à fait.
Voilà, Simon Astier donc qui joue le rôle du Benet quoi dans Kaamelott.
Yvain.
Voilà.
Ouais, donc, non mais quoi hein.
Alors, à l'origine de cette série, donc, qui va sera diffusée bah, soit à partir de ce soir, mais ça c'est l'horaire que je pourrais pas vous confirmer, 19h30 sur la chaîne Comédie, ou demain soir, 22h45, sur la chaîne Comédie également, avec 3 épisodes et 3 premiers épisodes, des formats 26 minutes, il y en a 15 durant la première saison. Le pitch, il est très simple, les super-héros, quand ils sont un petit peu cassés, quand ils en ont marre, quand ils ont des problèmes existentiels, qu'est-ce qu'ils font?
Eh ben, pour la gueule.
Ils se bourrent la gueule et tout. Ben, pour éviter ça, justement, eh bien, on a inventé HeroCorp, qui est une agence qui s'occupe justement de rassembler les super-héros. Ouais, de rassembler les super-héros dans un endroit, une espèce de maison de retraite ou de semi-retraite ou de convalescence, on va dire, hein, et dans lequel ils ont plus besoin donc de s'occuper de leurs problèmes de super-héros. Ils changent d'identité, ils prennent des identités normales et ainsi qu'ils commencent à avoir des emplois de monsieur tous les jours, hein, genre boulanger, pharmacien, enfin, tout ce que tu veux. Et donc ils se retrouvent dans un petit village qui est situé dans le Languedoc-Roussillon. Mais malheureusement, il va leur arriver quelques petites bricoles parce que automatiquement dans l'histoire de super-héros, il y a un super vilain. Et le super vilain, c'est Lord, The Lord, qui va revenir et qui va vouloir bousiller toute la terre entière. Et donc ces super-héros un petit peu à la retraite dont les coups ou dans les capacités de temps en temps connaissent des problèmes, tu vois, c'est comme t'imagines Wolverine et tout qui essaie de sortir les griffes, mais Snicked, au lieu de faire Snicked, ça fait cric 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 et ça se ralentit parce que bon, il est un peu rouillé, tu vois, enfin bon, c'est un petit peu l'esprit donc de la série instillée par Simon Astier, HeroCorp, ce soir à 19h30 peut-être sur Comédie, mais je ne le confirme pas, mais sinon sur demain soir à 22h40 les 3 premiers épisodes. Le village, c'est le premier, ensuite le test et le numéro 3, c'est le grand départ.
Et est-ce qu'il y a des personnages connus, enfin des acteurs connus dans la série qu'on aurait pu trouver par exemple dans Kaamelott ou dans Off-Prime?
Je suis désolé parce que j'ai très peu d'infos sur les acteurs et les différents intervenants. Sinon, je peux te dire que bon, comme ça parle de super-héros, que les super-héros reviennent de la bande dessinée, il y a un rapport intime avec la bande dessinée, vu que Olivier Perru, qui avait signé l'album avec de Kaamelott, hein, je crois, c'est lui qui fait l'album
non,
de Kaamelott.
Non, Steven Dupré.
C'est un flamand. Olivier Perru, donc, mais qui est quand même un dessinateur assez connu, même dans le monde des comics, parallèlement à ça, va dessiner des comics. Des faux comics quoi, qui vont avoir à faire avec l'intrigue de HeroCorp. C'est donc un petit pas vraiment comme Tim Sale dans Heroes, mais il y a un rapprochement quand même, et de la bande dessinée donc présente dans cette série HeroCorp ou HeroCorp en français con. Sinon du nouveau c'est tout, mais sinon il y a des rediffs qui sont assez sympathiques que je vous conseille vivement, par exemple.
Ah si, je vois que parmi les acteurs il y a Jonathan Lambert, il y a This is La Peste aussi morceaux d'interview dedans.
Voilà, tu vois, donc sinon du côté des bonnes reprises et des séries que justement j'en parlais juste avant qu'il faut pas louper, si vous l'avez loupé, c'est l'occasion du redémarrage. Oz, la série qui redémarre sur Série Club à partir du début, donc demain soir 22h30, première saison, épisode pilote, routine carcérale, suivi du deuxième épisode, visite conjugale, Oz. Alors là, il y a rien à dire, de toute façon, regardez, ça vaut le coup, c'est une des meilleures séries de tous les temps, mais réservée aux adultes, quand même, averti.
Ah oui, il faut savoir, pour le public féminin, regardez quand même, parce que tous les personnages de la série montrent de toute façon à un moment donné leur queue.
C'est une prison d'hommes.
Ouais, non, mais bon, c'est pas uniquement pour ça. Hein, disons,
c'est un détail.
C'est dans une prison pour mecs, quoi. Je veux dire, des nanas, il y en a pas beaucoup. Si, il y en a quand même. Il y a les permanentes et tout, mais.
Il y a une condamnée à mort qui a pas très froid non plus.
Non. Qui est d'ailleurs la femme dans la vie de Mac Manus.
Ah oui, d'accord,
Shirley Ballinger.
Si.
J'en étais où là? Sinon, il y a également le redémarrage d'une série dont je vous avais parlé et tout, parce que moi je trouvais ça, il y a des moments où tu pisses dessus de rire, qui s'appelle G-Spot, alors qui n'a pas trop rapport avec le sexe et ce fameux point G, mais qui a plutôt rapport avec une espèce de vision un petit peu caricaturale du monde d'Hollywood, à travers ses acteurs, ses actrices, leurs petits problèmes de tous les jours et surtout leurs espèces de déviance, de crise de personnalité, plein d'autres petites choses qui sont traitées de manière assez humoristique. C'est bien rentre-dedans quand même parce que c'est du moins 12, hein, c'est-à-dire que bon, il y a beaucoup d'allusions et beaucoup de scènes un petit peu osées, on va dire. Et c'est sur AB1 à partir de lundi prochain à 22h15, mais ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil parce que vraiment, il y a de bonnes scènes où vraiment on rigole à fond les manettes. Ça vaut le coup, c'est pas mal, c'est pas la super critique du monde d'Hollywood, du monde du cinéma, comme pourrait l'être par exemple une série comme Entourage, hein, qui va un petit peu bien profond là où il faut pas, mais ça fait quand même plaisir. G-Spot, là c'est un petit peu plus sur un ton primesauté, on va dire, bon bah, ok, hein, c'est plus bonne rigolade et tout, ça marche. Sinon je parlais de Voilà avant, une série dont Laura San Giacomo et l'héroïne, eh bien, comédie diffuse en ce moment la saison 7, hein, donc c'est mercredi prochain à partir de 18h05. Avec dans cette série, mais il y a Laura San Giacomo, mais il y a également le personnage, l'acteur qui interprète le photographe dans cette série, voilà, qui est le père de Véronica Mars dans la série Véronica Mars. Hein, donc voilà, c'est sur Comédie à partir de mercredi prochain 18h05. Et sinon, sachez que sur M6 vendredi prochain, ce sera le dernier épisode de la saison 1 du journal intime d'une call girl avec Billy Piper. Mais rassure-toi, ITV2 a décidé de produire la saison 2 et la saison 3 du journal intime d'une call girl.
Et il était toujours question d'une série en spin-off qu'elle fasse autour de Doctor Who, mais bon, étant donné la fin de la saison 2. Voilà.
Allez, comme on parle de Call Girl, ouais, non, bon, enfin, quand même,
c'est un raccourci.
Ouais, c'est un raccourci un petit peu dur, quand même.
Oui,
quoi.
Non, mais.
Des films de femmes, alors de tout et n'importe quoi. Hein, ça commence ce soir sur Canal+. Alors, je commence par le début, au niveau horaire chronologique. 19h20 sur E-Entertainment. Pam en toute liberté. Le docu-réalité sur Pamela Anderson. À regarder à tout prix.
Je croyais que c'était pas me rire, moi.
Non, c'est Pam, voyons, Pam, quoi. À regarder parce que bon, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Malgré une traduction simultanée, parce que bon, qui est vraiment bon, assez
doublage germain. À la polonaise.
Ah ouais, non, c'est germain parce qu'ils essayent de
mettre un ton,
alors bon, ça le fout très très mal, ça. Mais par contre, ça vaut le coup parce que Pamela, c'est Pamela. Il y a rien à dire. Hein. Tu la vois même un petit peu nue, on va dire.
Ouais,
c'est assez agréable. Toutes ces monceaux de silicone, mon gars. Ça vaut le coup. L'épisode de cette semaine, c'est Macabane au Canada. Où, parce que ça, elle a plein de projets et tout. Alors, dans des épisodes précédents, tu la vois, par exemple, prendre plein de ces objets qu'elle a reçus au fur et à mesure des années et tout. Puis elle fait un énorme vide-grenier. Mais alors, un vide-grenier, tu le crois pas et tout. Tu vois, quand tu vas dans un vide-grenier ici, quoi, tu vois plein de trucs, plein de. Alors, t'imagines la même chose, sauf qu'il n'y a qu'un exposant. Tu vois, et tous les trucs, ça.
D'accord. Ouais.
Et dont elle vend les trucs, mais après, le fric, elle le redonne à un foyer pour animaux blessés, des trucs comme ça. C'est-à-dire, c'est pas pour elle le fric, mais c'est pour la frime, c'est pour dire, allez, regardez, vous voyez, je vends mes vieux trucs et tout. Alors, des collections de pompes, tout et n'importe quoi, tu vois. Des strings, enfin, tout, quoi, tu vois, c'est-à-dire. Bon, des trucs pas mal.
Et
là, dans l'épisode de cette semaine, elle va au Canada parce que bon, elle est native du Canada, d'un trou paumé dans le Canada, et elle décide de faire un projet de faire un projet immobilier dans son coin, justement, quoi. Mais au lieu de faire un projet immobilier un petit peu sympa,
consternation générale,
elle décide de faire un projet immobilier, quoi, des villas, quoi, pour justement les acteurs d'Hollywood, tous les exécutifs et tout, c'est-à-dire le haut de gamme du cinéma qui va pouvoir se retrouver là-bas, de ce coin perdu du Canada où tout est magnifique et tout. Seulement, bon, bah, il faut raser plein de forêts. Et là, bah, les Canadiens de là-bas, ils sont pas d'accord du tout. Même si Pam, c'est une Canadienne comme eux. Ah, bah, non. Tout ça, c'est dans Pam, donc, ça se regarde vraiment très très bien quand même. Je lui dis, mais bon, il faut passer outre le fait que les doublages sont vraiment à chier. Sinon, un peu plus tard sur TPS Star, ce soir, 20h50, Les Aristos de Charlotte de Turckheim, avec Jacques Weber, Vincent de Sagna et même Sébastien Coé. Ah oui, Charlotte de Turckheim, qui est également dans le film, hein, d'ailleurs. Et ce soir, sur Canal+, alors une initiative qui a été titré X Femmes, et qui sont en fait 6 courts-métrages de X proposés à des femmes qui sont pas des habituelles du genre, hein, c'est-à-dire et qui ne sont pas forcément non plus des réalisatrices professionnelles. Et donc 6 courts-métrages réalisés par Lola Doyon, pas Lou, l'autre, avec elle, mais de Doyon, Ariel Dombal, Mélanie Laurent, Caroline Loeb, c'est la Watt, Laetitia Masson et Elena Noguera, la meuf de Philippe Catherine et la sœur de
Lio.
Donc, qui ont réalisé leur version d'un truc plus ou moins X, quoi. Alors, il y en a qui sont vraiment X, il y en a d'autres qui sont pas du tout.
Alors, à l'instar de j'avais du mal à le dire. Paraît-il que c'est vraiment très bon, sauf celui de Dombal. Mais
alors, j'aime pas trop les oui dire, c'est les paraît-il, ça sort d'où?
Devine.
D'accord.
Non, bon, ils le disent dans Télérama. Voilà. Donc, voilà.
C'est assez étonnant quand ils en parlent. Et j'avais vu au grand journal.
Mais non, il y a Ariel Dombal dedans. Donc.
Ils sont cul et chemise. Il y avait Noguera et Dombal. D'accord. Dombal et Noguera qui sont passés au grand journal il y a quelques jours, et ça avait l'air vraiment très intéressant comme projet.
Ouais, ouais, mais le projet en lui-même, c'est pas mal, quoi. Donc c'est ce soir à minuit sur Canal+, c'est normal, hein. Hein?
Ouais.
Le samedi soir sur Canal à minuit. Eh ouais. Donc X Femmes, donc hein, c'est 6 courts-métrages. Demain sur Ciné Cinéma Émotion à 22h45, Chromophobia de Martha Fiennes avec Christine Scott Thomas, Damien Lewis et Ralph Fiennes. Sinon sur Ciné Cinéma Classique demain à 20h45, La Femme au Gardenia. Alors ça c'est réalisé par Fritz Lang. Mais bon, c'est parce qu'il y a femme dans le titre, mon gars. Et que c'est Anne Baxter, surtout. Mais également avec David Sautern, Richard Conte. Ah ouais, Richard Conte. Et Raymond Burr. Mais à l'époque, il n'avait pas au sein de la chaise roulante.
Ouais, il était tout.
Lundi, Ciné Cinéma Club, à 22h30, Gwendoline de Just Jacqueline. Ah, avec Tony Kitten, Brent Huff, Zabou Brightman en 83.
Oui, c'est ta génération.
Et Bernadette à fond. Ah ben non, là, à l'époque, Zabou, je veux dire, elle était peut-être même pas majeure, tu vois, quoi.
Mais t'as tout eu Judge Aikin à la maison.
Judge Aikin, c'est quand même le mec qui a fait Emmanuel, quoi.
Hein. Oui, attends, c'est surtout voilà, ce qu'il a fait, ouais.
Ah ouais. Non, mais tu sais qu'il y a également une bande dessinée un petit peu olé olé qui s'appelle Gwendoline.
Gwendoline, c'est ma copine.
Ouais, bon, d'accord. mardi, pas trop, mais mercredi, par contre, c'est pas mal avec Canal+, qui vous propose Persepolis de Marianne Satrapi de Vincent Parrono. Là, personne ne dit rien et tout le monde opine du chef. C'est merci, les gars. Sur Canal+ Cinéma, en même temps, et ça c'est un peu dommage, Face, l'excellent petit polar d'Antonia Bird de 97.
Ah oui, avec Robert Carlyle.
Avec Robert Carlyle, Ray Winstone, Damon Albarn, c'est le premier qui crève d'ailleurs. Tu sais, le chanteur de Blur, là.
Ah bon?
Et ouais.
Je m'en souviens pas du tout.
Merci le spoiler!
Il a dit que c'était au début, ça va.
Il braque un truc, et au moment de partager le magot, il y a des mecs qui crèvent au fur et à mesure et tout, quoi. Et
donc, festival de Cognac.
Oh, je sais pas.
Il avait reçu le prix à Cognac.
Oui. T'as raison.
Je me souviens surtout d'un braquage d'anthologie dans le commissariat vers la fin du film qui vaut sans besoin de cacahuètes.
Mais Antonia Bird, qui est d'ailleurs une habituée, qui est une des favorites de Robert Carlyle, qui a trouvé plusieurs films avec elle et qui est une réalisatrice très connue à la télé anglaise, hein, vu qu'elle réalise également de nombreux épisodes de séries qu'on connaît, hein, genre MI5 ou je sais pas si elle a déjà fait des Barnaby, mais enfin voilà. Donc
rappelle-nous, ça passe quand Face? Ça me fait très plaisir de le revoir.
Ça c'est Canal+ Cinéma mercredi prochain 20h50. Et il y a également sur TPS Star mercredi prochain Nathalie d'Anne Fontaine avec Fanny Ardant et Emmanuel Béart. Ouais, une lunette, bon, une blonde ensemble, ouais. Et Gérard Depardieu, que vous aimez beaucoup.
Encore.
Ainsi que Vladimir Yordanov. sur Ciné Cinéma Club, mercredi prochain, il y a également un film italien fait par une Italienne qui est peut-être la fille de Francesca Comencini. À mon avis, c'est sûrement la fille de, puisque le film est récent. Il date de 2006. À Casa Nostra, avec le grand Luca Zingaretti, commissaire Montalbano, Valeria Golino et Laura Ciatti. Oh là là. Ciné Cinéma Club, mercredi prochain à 22h15. Et je termine avec le film de la semaine. Quand même, c'est sur Ciné Cinéma Club, jeudi prochain à 20h45. C'est un film belge de Jan Bukois, Camping Cosmos avec Jean-Henri Compère, Fanny Ancio, Jean-Paul Dermont et Lolo Ferrari. Airbag Generation. Un film dans lequel un conseil culturel belge vient dans un camping et essaie de d'expliquer la beauté du théâtre de Bertolt Brecht aux campeurs. Donc c'est tout un programme, ça s'appelle Camping Cosmos, c'est jeudi prochain sur Ciné Cinéma Club à 20h45.
Et oui, si tu veux.
Vous avez écouté Radio FMR ?
Non, tu te plantes de ligne.
Thomas, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route ?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il était question d'aréopage. Nous avons eu une allusion traditionnelle à Télérama. Nous avons une interview de Tot, grand stratégaire d'Ankama, du Vroom Vroom. Oui,
assez tard. Oui. Mais c'est quand ton anniversaire, Xavier ?
C'est passé.
Ouais, c'est passé.
T'en fais pas. Hein.
Donc, il était question également de Vroom Vroom et de Fiu, du film de gangster, du quiz Vincent Cassel est un bad guy, de la nécro cachée de Franck Lacassin, un top 5. Alors attends, j'essaie de me relire. Ah oui, un top 5 sur la musique hollywoodienne, une revue de
presse. Bollywoodienne.
Bollywoodienne, oui, pardon. Oh. Une revue de presse érotique et de super-héros, une alerte cul. Il était question de Pamela Anderson, un petit peu nu, du film de gonzesse et du théâtre dans un camping.
Non, une mêlée, ils ont manqué tout ça. Heureusement, ils peuvent réécouter l'intégralité de cette émission avec des chroniques écrites, mais aussi fouiller dans nos archives. Laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web supplémentweekend.tk. Supplémentweekend.tk, vous le savez, si vous ne le trouvez pas, vous faites Supplément Weekend dans Google, on est les premiers.
Youpi.
Youpi. Nous sommes en direct, en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net dans le prochain épisode.
Et next time in the supplement, in the weekend supplement, it will be a special US issue with the indecision about the election this year.
Fuck, we have comme guest Obama des frites.
No, but it will be an Italian drummer of a comic book.
Ricardo Bocelli,
l'italien drummer,
drawer. Sorry. Interviewed in Angoulême this year.
Ladies and gentlemen, nous.
ce sera donc Bocelli. Bocelli, excusez-moi, pour DMZ. Et donc on parlera un petit peu des États-Unis et même beaucoup des États-Unis. Voilà.
C'est le moment de ressortir la chanson de Rammstein.
Ouais, je pense.
We are living in America. America.
Voilà, de suite du sport. Donc avec où il ne parlera ni du match PSG-OM ni du match Stade Français Stade Toulousain. Nous on se donne rendez-vous donc sur cette fréquence, même heure, semaine prochaine. Ciao, bye.
Salut.